Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Je commencerai, chers auditeurs, par une confidence qui démontre que je suis un homme qui tient ses promesses. En effet, la dernière fois que nous avions reçu Elie Semoun dans l'équipe est sauvage, il avait semblé regretter qu'il n'y ait pas de public. Nous n'avions pas encore le budget pour ça à l'époque. Avec la générosité qu'on lui connaît, Elie s'était alors proposé de nous aider.
Est-ce que vous voulez que je fasse semblant qu'il y ait un public ?
Ce jour-là, j'avais dit à Elie, si jamais les audiences sont bonnes et qu'on a un peu plus de blé, promis, la prochaine fois, je t'offre un public et tu peux même venir avec un pote. Chose promise, chose due. On souhaite la bienvenue à Elie Semoun et Florent Père dans l'équipe est sauvage en public le vendredi. Ouais, vous faites bien le public, Elie, mais le public, en vrai, c'est mieux.
C'était tellement triste la dernière fois. C'était pathétique, mais c'est vraiment, je voulais pas te le dire.
On avait passé deux heures d'une tristesse terrible, d'ailleurs.
D'une tristesse, mais c'était mais alors, terrible.
Moi, en revanche, je vois le public, oui. Mais je ne vois pas le pote.
Florent, vous êtes ce pote.
Il veut exister.
Ah, oui,
il veut exister. C'est typique du comédien. Il veut la lumière
tous
sur lui.
Égaux.
Oui, tu existes. Ah, oui, tu es
là.
Oui, tu es là. Tu n'as pas de talent, mais tu es là.
Elie Semoun, vous réalisez Du Cobu 3 et Florent Père, vous jouez dedans. Le film sort le 5 février, mercredi prochain. Et Elie, c'est votre première réalisation. Alors déjà que je vous connais un peu, vous êtes du genre anxieux et stressé. Là, vous devez être liquide.
Non, pas tant que ça, hein, parce que franchement, j'avais co-écrit le scénario avec Marc de Chauvron et Guy Laurent. S'ils écoutent au Grand Pain, ils seront contents de l'entendre. Et puis moi, j'ai fait perdre un peu de temps. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse. Mais, non, mais donc, je maîtrisais mon sujet. Donc franchement, j'ai pas eu trop de stress. C'est maintenant que je commence à flipper là.
C'était le film idéal pour commencer pour se mettre à la réalisation.
Ah,
vous connaissiez l'univers parfaitement.
Complètement. Les enfants, les adultes.
Oui, n'allez pas trop loin là-dessus. On va parler évidemment de Du Cobu et aussi du prénom pièce avec laquelle vous êtes actuellement en tournée, Florent Père. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence autour de la table. À ma gauche, Elie, elle est persuadée que vous êtes très pote parce qu'elle vous a croisé une fois dans un bar avec un autre ami humoriste. Voilà. Mais afin de lui éviter de revivre le même moment de solitude que la dernière fois, quand hors antenne, juste avant l'émission, elle vous avait demandé si vous vous souveniez d'elle, je vous le dis à l'oreille, c'est Eva Rock. Je sais que tu t'en fous complètement, mais essaye de faire mieux semblant que la dernière fois. Après tout, t'es acteur.
On avait bu un verre ensemble avec Visorek, Kelly.
Oui, oui, oui.
Vous en souvenez? Juste avant Jérôme Commandeur.
Oui, oui.
Avant le spectacle de Jérôme.
Et donc...
Oui, donc la suite. Bonjour Eva Rock.
On est aussi gênés l'un de l'autre avec vos
collègues. Très, très, très bonne amie d'Elie Semoun, donc.
Ouais, excellente amie.
Souvent.
Rappelle-moi ton prénom.
Quant à Florent Père, vous êtes quasiment sa nièce, on peut le dire.
Vous voulez vraiment que je dise où vous croisez Florent Père, vous, ou pas?
Moi ouais. Je l'ai croisé une seule fois dans ma vie.
Oui, et où?
Oui.
Alors, c'était une petite soirée dans une station balnéaire de la Côte d'Azur.
D'accord, vous buviez de l'eau, évidemment.
À Saint-Hyor, toute la soirée.
Bien sûr.
Tout à l'heure, Eva, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télé ce soir. Mais vous le savez, l'équipe est sauvage, c'est avant tout la grande compétition opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Un seul décrochera en fin d'émission cette prestigieuse couronne dont la valeur avoisine à elle seule le quart du budget de Du Cobu 3. Je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. Des concurrents qui tremblent car ils connaissent le degré d'exigence d'Elie Semoun dans cette émission. Ils savent que tout peut aller très vite, même dès l'énoncé du sujet.
Les industriels s'inspirent de la nature pour améliorer leur performance.
Qu'est-ce que c'est, pardon?
Je vais vous parler du biomimétisme.
Bah, je vais y aller les gars, hein. Je me casse.
Bonjour Fred Coetti.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de Jazz Magazine et aujourd'hui vous nous racontez la vie touchante et romanesque d'un gamin à qui on avait dit qu'il pourrait jamais jouer de piano et finalement il en a joué un petit peu.
Oui, mais c'est surtout lui qui va se raconter parce que j'ai eu le bonheur de le rencontrer il y a 20 ans et vous allez entendre sa voix, je vous en dis pas plus.
Ah bah on peut dire, il faut dire qui c'est quand même.
Bah, mais c'est Michel Petrucciani évidemment.
Ah, oui, on l'a pas dit. Hein.
Bah, c'était tellement évident que je l'ai entendu sa voix.
Moi, je crois que c'était Philippe Croizon.
Hop là, on l'embrasse. Est-ce que Michel Petrucciani ça vous parle comme sujet? Ça
ah oui, bien sûr.
C'est un sujet
évidemment.
Qui peut récolter
moi,
des points éventuellement.
Je suis un fou de jazz. Je connais
ça tombe bien
jazz.
Parce que le deuxième sujet c'est moins sûr. Voici l'intello de la bande. Quand je l'ai connu, c'est à peine s'il disait bonjour dans les couloirs. Il était une légende interne d'Europe 1, Nicolas Carreau, l'homme aux 9T dans Télérama, sachant que tout le reste d'Europe 1 se partage un demi-T. Il était donc assez logiquement hautain et pédant. Heureusement, je m'emploie au quotidien à le faire redescendre sur terre en lui montrant par exemple qu'ici la parole de l'invité est plus importante que celle des chroniqueurs. chroniqueurs. Ce que je fais, je vous rassure, avec beaucoup de tact et de diplomatie, comme vendredi dernier face à Isabelle Carré.
Alors c'est quoi votre titre préféré ? Moi j'en ai
justement.
Allez-y Isabelle Carré, moi je veux entendre le vôtre.
Ça dit toute la substance d'un titre.
Non, je m'en fous de toi, il y a Isabelle Carré avec nous. Bonjour Nicolas Caro.
C'est violent. Hein.
Pardon mon bichon, pardon.
Beau gosse en plus.
Priorité à l'invité. Avec quel sujet allez-vous tenter de l'emporter aujourd'hui,
justement,
Nicolas ?
Justement, priorité à l'invité.
Et non, j'ai on s'en fout de ton sujet.
De parler ta gueule. De parler à Elise Moon et pas à Florent Père.
Ah bon ?
Des liens entre chansons et poésie, parce qu'il aime les deux.
Nicolas Caro, vous nous avez donné votre sujet. Le programme est donc complet. L'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc le 5 février, mercredi prochain, que sort le premier film d'Elise Moon avec Elise Moon et Florent Père, nos invités du COBU, troisième du nom, petit avant-goût.
Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école ? Inscris-toi au mini conservatoire !
Mais tu chantes comme une casserole !
Mais je triche comme un roi !
Ça va être la triche du siècle.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots.
On est sauvés !
Du COBU change d'école ?
Du COBU va sauver Saint-Potache.
Votre fils est un génie.
En cancrerie ?
Non, en chant.
Ce n'est pas Maître Bims, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix.
Ce n'est pas Maître Bims, effectivement. Merci. Alors là, du COBU, il va avoir affaire à un nouvel adversaire encore plus rusé que lui.
Oui. TGV.
TGV, on le surnomme.
Théo Georges Vincent.
C'est la triche, mais 2.0, quoi.
La triche 2.0, voilà.
C'est plus moderne.
Il a été appelé TGV par sa mère parce qu'il est né en 59 minutes. Enfin, il a été plus rapide que le Paris-Lille. C'est l'explication qu'il donne. Mais oui, en effet, il a un ennemi juré, le petit TGV. Mais ils vont s'allier tous les deux pour couper les pattes à...
Couper l'herbe sous le pied. Couper les pattes, c'est une expression qui n'existe pas.
J'ai failli spolier le film.
Ah oui, non, faisons
rien. En fait, dans ma tête, c'était couper les pattes, couper la voix, couper les...
Je crois qu'on dit spoiler, par contre. Hein? Non, t'as dit spoiler, je crois qu'on dit spoiler. Mais
c'est ton attitude est moche, Florent.
Est-ce que vous avez déjà touché votre cachet, Florent, sur le film?
Tu es mon ancien employé.
Non, sur le film, c'est pas mon cachet que j'ai touché, je vous expliquerai ça plus tard. Ça, c'est travailler avec Ellie.
On est en train de faire la promo du COBU, là, mec. Il faut qu'on se remette dans le contexte.
Florent,
mais bref, TGV et du COBU vont s'allier pour niquer.
On peut le dire. Un film familial où tout le monde se nique.
Niquer sa race.
Florent, vous incarnez une sorte de Nikos Aliagas, un petit peu cynique.
Ah,
c'est
oui,
le cas de le dire.
Oui, c'est ça.
Vous êtes beaucoup inspiré de Nikos pour ce personnage d'animateur télé.
Oh non.
On ne sait jamais.
Si, sur les suspens. Ouais, j'aime bien quand il est engagé, tu sens qu'il est très touché et tout. Je crois que Nikos ne le joue pas vraiment en fait.
Il est bien, Nikos.
Génial.
C'est un super animateur.
C'est le meilleur animateur du monde, je trouve. Mais... il est trop bien, la classe.
Il paraît que vous savez l'imiter.
Alors, l'autre, oui.
Enfin, non, tu sais imiter Hanouna, toi.
Ça fait longtemps que je l'ai pas fait.
Non, mais tu le fais tellement bien.
Nikos, je fais.
Non, mais c'est
Manu Payet qui imite Nikos. En fait.
C'est ça,
parce que je fais salut les loups, bienvenue dans le château. Les coachs, Jennifer, Gao, Florent Panet, tout ça. Donc en fait,
c'est Hanouna, Hanouna,
je sais faire que son rire.
Je l'adore.
Attends, Hanouna, attention.
Son rire.
C'est magnifique. C'est vrai qu'on s'y croirait, mesdames et messieurs. Florent Père est notre invité avec Elise Moon. Ils sont à l'affiche de Du COBU 3 qui sort en salle mercredi prochain.
Europe 1.
À suivre, dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de présenter Michel Petrucciani. Chaque enfant, chaque ado connaîtrait Michel Petrucciani. Devant chaque arrêt de bus, des collégiens écouteraient Michel Petrucciani dans leur casque. Entre De Rix à Orly, Booba et Caris feraient la paix en écoutant Michel Petrucciani. Et aucun être doté de conscience ne pourrait écouter Jules sans s'exclamer.
Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde.
Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Voilà pourquoi l'intervention de Fred Gauthier est tout à fait nécessaire. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Étanchez votre soif de savoir sans pour autant risquer de vous démettre un neurone. Vous écoutez l'équipe est sauvage en public le vendredi. Florent Père et Elise Moon nous accompagnent cet après-midi pour fêter la sortie mercredi de Du COBU 3. Elie qui était déjà passée nous voir en novembre dernier pour son spectacle et qui avait trouvé mon interview si bien ficelée, si rigoureuse, surtout quand on avait abordé son passage à la réalisation, qui s'est dit « faut que je revienne ». Faut dire que j'avais été bon. Dites-moi mon cher Elie, bientôt le troisième volet de Du COBU.
Que j'ai réalisé, tout à fait.
C'est le premier film que vous réalisez.
C'est la première fois.
Mais alors vous avez réussi à tenir la petite caméra avec vos petites mains ? Alors à part celle-là, quelle est, Elie, la question la plus con qu'on vous ait jamais posée en radio ? En deux derrière celle-ci.
Ah bon. derrière celle-ci. Non, mais celle-là, elle surpasse toutes les...
Avec vos petites mains.
Avec vos petites mains.
Vous avez réussi.
Un petit film avec vos petites mains. Vous avez dirigé vos petits comédiens. Non, mais Mathieu, franchement, je t'aime, tu le sais.
Je sais.
T'as du talent, mais,
oui, mais, pas
mais
toujours.
Là, franchement, t'en as pas tout. Tu m'as enlevé les mots de la bouche.
On se connaît tellement bien. Non, autre question.
Si, la question idiote, c'est... Mais vous avez pas repris le même du Cobu?
Alors ah, ça, c'est la question idiote.
Non, mais c'est la question idiote. Parce que les enfants, ça grandit. Le temps, ça passe. Donc forcément, les anciens du Cobu, il y en a un, il est peut-être
il
en
est poilu.
Série. L'autre, l'autre, il a son permis poids lourd. L'autre, il fait de la pêche au gros. Enfin, j'en sais rien, mais ils ont grandi, les gars.
Et le nouveau est pas mal.
Ah, hein. Oh, je l'adore.
On va en parler Mathis, tout à l'heure, le Mathis. Alors, c'est l'heure d'écouter notre premier journaliste en compétition aujourd'hui, Fred Goetti. Vous êtes l'éminent directeur de Jazz Magazine. Et je vous ai commandé une chronique aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est celle consacrée à Michel Petrucciani. On va rappeler tout de suite qu'il est né le 28 décembre 1962 et que toute sa trop courte vie durant, il a souffert d'une maladie terrible, l'ostéogenèse imparfaite, plus connue sous le nom de la maladie des os de verre. Et en été 98, j'ai eu le bonheur de l'interviewer pendant 4 jours pour un livre autobiographique. Et évidemment, il a fallu qu'il mette de l'ordre dans ses souvenirs. Et le premier qui lui est revenu à l'esprit, c'était en juillet 69. Ses parents l'ont réveillé et à la télévision, il y avait Neil Armstrong qui marchait sur la Lune. Et il a mélangé les deux souvenirs. Il s'est souvenu de Neil Armstrong et du grand pianiste de jazz Duke Ellington qu'il avait aussi découvert à la télévision.
Et je me souviens de ça aussi, les premiers pas sur la Lune. Je me souviens de Duke Ellington, ça m'a marqué autant. Et ce son de piano m'a marqué. Moi, le grand piano, l'instrument, la beauté de l'instrument, ça m'a plu.
Alors évidemment, ce Duke Ellington, ça lui a immédiatement donné envie de laisser danser ses mains sur le clavier. Alors je vous ai dit quand il était né, je ne vous ai pas dit où. Il est né à Orange, dans le Vaucluse. Et devinez quel fut son premier cachet à Michel Petrucciani.
Mon premier cachet, c'était une Orange. Mon père m'a filé une Orange, c'est mon premier cachet, je suis très fier, je vais avoir 8 ans, 9 ans. Non, j'étais à la batterie. Parce que je faisais des études classiques et je n'avais pas vraiment le droit de faire du jazz, donc au piano. Alors pour m'éclater, mon père avait une très bonne idée de me mettre à la batterie. Et en plus, il m'avait fait une petite batterie à ma taille, ce qui me permettait de, en même temps, me muscler les jambes. C'était à la fois une thérapeutie d'ostéopathe et en même temps je m'éclatais en jouant avec mes frères et mon père, quoi, du jazz.
Vous avez remarqué, c'est très joli, il dit thérapeutie. Il inventait des mots comme ça aussi. Alors, il a appris le jazz à l'école de la ville, la plus belle, avec son père, guitariste, et son frère, contrebassiste. Mais évidemment, comme tous les jeunes apprentis jazzmen, de quoi il rêvait? D'aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, lui arrivait un truc incroyable. Un soir, il a été invité à dîner par un très grand saxophoniste de jazz qui s'appelle Charles Lloyd. Et Charles Lloyd lui dit, pareil, vous jouez du piano, jeune homme. Parce que c'était un illustre inconnu. Michel Petrucciani s'est mis au piano. Et là, Charles Lloyd, il a vu la lumière. Il a ressorti son saxophone. Il ne jouait plus depuis 10 ans. Et à l'époque, il jouait avec Keith Jarrett, Charles Lloyd. Donc vous imaginez le niveau de Petrucciani déjà à cette époque-là. Et Charles Lloyd s'est dit, c'est bon, je repars sur la route avec vous. Et donc, dès lors, Petrucciani a fait ses classes aux États-Unis et comme nul n'est prophète en son pays, sauf Michel Petrucciani, il est revenu en France. Il a été connu après dans toute l'Europe. Il est devenu une star et c'est la plus belle vie qu'on puisse rêver quand on avait le handicap qu'il avait.
Et il avait une vie de patachon, si je puis dire.
Il a brûlé la chandelle par les deux bouts.
Vous l'avez interviewé, il sortait avec des femmes, il picolait.
Il ne s'interdisait
rien. Je crois même
qu'il
est tombé d'un escalier, c'est ça? C'est ce qui a...
Non, d'un trottoir.
La personne est décédée, Florent.
Florent Père,
tu te moques d'une personne
jazz.
Qui est morte.
Donc, j'adore Petrucciani.
Il a fait une chute, c'est ça?
Il en faisait souvent.
Il en faisait souvent.
Et sa maladie le rendait fragile. Extrêmement fragile. Des fois, il pouvait se briser ou se fêler un os en jouant du piano. Wow.
Quel âge il a quand il rencontre le saxophoniste?
Il a à peine 20 ans.
Ah oui, d'accord.
Vous vous rendez compte? Donc, et il est mort à 37 ans, hélas. Et ce qu'il a fait vers la fin de sa vie, c'est qu'il a adoré, comme Keith Jarrett d'ailleurs, jouer en piano solo. Et notamment au Théâtre des Champs-Élysées, il a joué un de ses plus grands tubes.
Mmh. Vous étiez là, Élie?
Oui, j'étais là, mais alors la grande surprise, c'est de le voir arriver porté par quelqu'un.
Mais oui.
Parce qu'il faut savoir que les gens ne le savent peut-être pas, mais Michel Petrucciani était handicapé.
Oui.
Enfin, il était tout petit.
Il ne pouvait pas se déplacer jusqu'au piano.
Voilà, il se déplaçait avec des cannes, etc. C'est pour ça qu'on peut difficilement imaginer cette vie de fou qu'il avait, physiquement, je ne sais pas comment il faisait pour Enfin, il se bourrait la gueule avec un tout petit verre de rhum. Et... non, mais je sais pas, mais...
C'était un phénomène. Il fallait une énergie incroyable.
Qui essaye de rattraper le truc. Fred sort les rames. Alors,
je pense que je t'ai critiqué tout à l'heure. Bah oui, mais le naturel revient au galop, c'est normal.
À la fin de son premier concert, il dit à son producteur, je veux une limousine, c'est clair. Et son producteur lui a amené une Smart. Et il était hyper content.
Et Ellie qui ne cautionne pas, non. C'est ça le plus fort. C'est qu'Ellie le regarde et dit mais pourquoi je l'ai embauché? Pourquoi?
Non mais
c'est honteux, on était sur une belle histoire.
Ouais ouais, mais il avait un talent fou, mais
il serait là, il en rirait le premier.
Voilà, ouais, croyez-moi.
Moi je connais très bien aussi Guillaume Batz qui a la même, qui est humoriste et qui a la,
il a la même maladie.
Ouais. Alors c'est moins, je crois que c'est moins grave que Petrucciani, mais monter sur scène c'est vraiment dur. Même quand on est en accord avec ce qu'on est physiquement et tout, déjà de se mettre comme ça en pâture au regard d'un public, c'est compliqué. Et j'ai vraiment énormément d'admiration pour les gens qui montent sur scène avec un handicap comme ça, parce que ça veut dire qu'il faut assumer.
Tu dis ça parce que je suis juif ?
Ça y est, ça n'avait pas dérapé depuis 1 minute 30. Attends. Et nous l'avons.
Franchement,
le premier dérapage de cette émission, le vrai.
Le buzz.
Le buzz, il arrive.
On cherchait le buzz
la dernière fois avec Ellie. Il arrive vite
on
avec
a le
vous.
Buzz.
Bravo. Merci Fred Goetti pour cette très belle chronique. Nicolas Caro, votre réaction à la chronique de votre rival en restant fair play, bien sûr.
Oui, une vraie chronique maintenant.
Ambiance. Europe 1. L'équipe est sauvage continue en musique toujours, puisque Nicolas Caro, notre expert littérature, va nous parler de ces poèmes qui sont devenus des tubes, toujours avec nos invités d'honneur, Florent Père et Elie Semoun, les stars de Duc au but 3, qui découvrent, ou dans le cas d'Elie, redécouvrent l'accueil VIP que l'équipe est sauvage réserve à ses guests. Pringles et Cristaline en loge, et à l'antenne, petites attentions qui font plaisir, comme par exemple, lorsque l'invité a sorti un album de chansons, comme Elie Semoun, en diffuser une. Ça aurait été sympa la dernière fois. Sauf que la dernière fois, on avait un peu oublié.
Mais sa musique à la place de la mienne. C'est lui le maestro, pas moi. Hein. Oui, tu m'enlèves.
Ma musique, un de mes titres.
Pardon ?
Non, rien. Ah oui, on aurait pu ?
Oui, on aurait pu ! Alors là, par exemple, il y a écrit sous mes yeux, Étienne Dao. Mais je pose la question, Étienne Dao est-il là ? Il n'est pas là, Étienne Dao.
Elie Semoun est là.
On s'en fout, Elie Semoun est là. Voici Femme actuelle, Elie Semoun sur Europe 1.
C'est gentil, ça. Merci. Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue en public le vendredi. Deux heures d'une bataille rangée pour déterminer qui repartira tout à l'heure avec cette sublime couronne qui, déjà la dernière fois, avait ébloui Elie Semoun.
Elle est dégueulasse. Ah non, franchement, je me battrais pas pour un truc comme ça.
Bienvenue sur Europe 1. Alors Elie, J-5 avant la sortie de votre tout premier film, Duc au but 3.
Quoi ?
Est-ce que vous êtes content, fier du résultat, et surtout, est-ce que vous êtes content de Florent Père ?
Oui, je suis content de Florent Père. Heureusement que j'étais là pour le diriger, parce que c'est n'importe quoi. Il comprenait rien du tout. Non, bien sûr, je suis content, mais j'ai du mal à parler de mon propre film. Forcément, je l'aime bien, Florent.
Alors, Florent, comment vous avez trouvé Ellie en tant que réalisateur ? Est-ce que c'est un réalisateur ?
Sois sincère.
Ellie ?
Allez, sois sincère, essaye pas d'être drôle, bordel. Les gens veulent de la sincérité.
Eh bien, je vais être très sincère. C'est un sans flagornerie. Là, ce qui a été très agréable, c'est que j'ai lu le scénario une première fois. J'ai appelé Ellie, je lui ai fait des petits retours, aussi humbles soient-ils. Et j'ai trouvé une oreille attentive, alors qu'il aurait pu me dire, Coco, bon. Et on a même un petit peu réécrit ensemble, et surtout ensuite sur le plateau. Comme il me connaît un petit peu, il m'a dirigé tout en me laissant aller à quelques petites impros, quelques petites inventions, on va dire.
D'accord, il y a de l'impro.
Certaines ont été gardées, d'autres non.
Parce que Ellie, vous n'aimez pas l'impro normalement.
Non, j'aime pas du tout.
Vous disiez que l'impro c'était parfois génial, mais parfois c'était surtout pourri.
Juste avec Florent, on a fait de l'impro, mais avec les enfants, je ne voulais pas. Et avec les autres, Frédéric Bell et Loïc Legendre, qui font le père et la mère de Mademoiselle Gratin. Je leur ai interdit de faire ça parce que je sais ce que c'est. On est tous des cabotins. Et en fin de scène, on rajoute des conneries qui n'ont aucun rapport, qui font rire juste les techniciens et le réalisateur. Et ça ne va pas du tout. Moi, j'avais une idée bien précise de mon histoire et je savais où j'allais. Et je ne voulais pas rajouter des trucs.
En plus, c'était suffisamment compliqué parce que vous jouez en plus trois personnages. On va en parler tout à l'heure.
Du Cobu 3.
On va en parler.
À chaque fois, c'est on va en parler.
On va en parler, Ellie, parce qu'il ne faut pas être trop pressé.
Non, ça va.
Il faut pas
Mathieu,
être trop pressé,
ça va. On la connaît, cette histoire.
Il est gourmand.
On la connaît, cette réflexion. On va en parler. Non, on en parle maintenant et puis c'est tout.
Eh bien, vas-y.
Eh bah, on eh bah voilà,
tu sais plus quoi
l'heure.
Dire. Et les Simon et Florent Père sont nos invités cet après-midi. Ces chansons, vous les connaissez forcément, les amis, mais saviez-vous qu'à la base, c'était des poèmes ? Rendez-vous dans un instant avec notre expert littérature, Nicolas Carreau, pour sa chronique « Quand la variété pille la poésie ».
Quand je pense que j'allais applaudir, heureusement que je me suis abstenu.
Oh, Ellie !
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
La semaine a été dure, vous rentrez du travail tout bougon, et bien nous sommes là pour vous débougonner. Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission dont les audiences progressent, mais pas le budget son. Et le vendredi, vous entendez la fiévreuse clameur.
Bon, tant pis.
Nous sommes en public. Public dont l'hystérie est légitime, puisque outre Elise Moon et Florent Père, qui sont contents de voir aussi, nos spectateurs espèrent surtout pouvoir faire un selfie avec Nicolas Carreau. Le beau gosse du journalisme littéraire, à qui il arrive même de jouer de sa ressemblance avec Nicolas Bedos pour réserver des tables au resto, c'est ce qui se murmure dans Paris. Alors évidemment, journaliste littéraire, ça claque. On imagine tout de suite un être d'un raffinement extrême, chez qui tout est élégance. Par exemple, nous, pour tester le micro avant l'émission, on fait tous 1-2-1-2 ou Paris, Bordeaux, Le Mans. Mais que dit un grand journaliste littéraire lorsqu'il teste un micro ? Récite-t-il quelques vers de Mallarmé, un quatrain de Rimbaud ? Découvrons-le.
Petit essai, les amis.
Ah ouais, d'accord.
Pute. Ah, c'est je connaissais pas ce poème-là.
Ah non.
Ah non, comme quoi l'œuvre de Rimbaud est vraiment éclectique. Nicolas Pupute, les présentations étant faites, nous vous écoutons. Vous nous parlez justement de poésie cet après-midi, Nicolas.
Bite nichon, bite nichon. C'est bon, mon micro est ok.
C'est
mon nouveau poème. Je suis content. Je suis inspiré ce matin.
C'est un fou de poésie, donc
j'adore la poésie.
Et il écrit aussi des chansons. Et j'avais envie, ça m'a donné envie de parler des liens qu'entretiennent la chanson et la poésie, parce que ça a l'air évident, mais pas tant que ça, finalement. Un poème, c'est déjà une chanson en soi, normalement. Un poème, c'est censé être sonore, déjà, ben c'est oui. Ça. Un poème, c'est agencer les mots de telle manière qu'une musique s'en dégage. Mais c'est vrai que c'est pour cette raison aussi que c'est un peu tentant de les mettre en musique, comme Yves Montand, par exemple.
C'est un trou de verdure où chante une rivière.
Rimbaud. Ah, bravo, le dormeur du Val.
Passer de la compagnie créole à ça, c'est osé.
Il y avait Gainsbourg qui était très fort aussi pour ça.
Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums.
Eh ben, il se fout pas de notre gueule, Elie Semoun.
J'ai même pas fait un blind test, je me suis dit personne va trouver.
Facile.
Bravo, le serpent qui danse de Baudelaire, ouais. Donc par Gainsbourg. Mais Gainsbourg, il a une manière de dire qui permet ça. Montand, ça marche moins déjà, je trouve.
Pour Léo Ferré, ça marche très très bien.
Il y a une autre catégorie, ce sont les chansons écrites par des poètes, mais qui sont des chansons. Enfin, ils les ont écrites pour être des chansons, pas pour être des poèmes.
C'est une chanson.
Jacques Prévert.
Qui nous ressemble.
Élie, arrêtez de nous insulter avec votre culture générale, Élie.
Chanté par Yves Montand, mais écrit par Prévert, ouais. Absolument. Il y a Maurice Vian aussi.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Et ça, c'est pareil. Ça aurait pu être un poème, mais ça a été écrit spécifiquement pour être chanté. Ça change tout. Et alors, il y a
le
aussi.
Le déserteur, il faut le dire.
Voilà, le déserteur de Boris Vian. Il y a ceux qui ne sont pas écrivains, qui sont de purs poètes, mais qui sont aussi musiciens. C'est encore une autre catégorie, comme le prix Nobel de littérature.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched.
Donc c'est Bob Dylan, The Times They Are Changing, et c'était intéressant qu'il ait le prix Nobel de littérature justement pour ça, parce
ça
que
fait débat, non
c'est de la littérature ces chansons. Quand on lit ces chansons, ce sont des vrais poèmes, mais évidemment, comme tout à l'heure, il les a écrits pour justement être chantés, donc ça change tout. Et puis il y en a un dernier, c'est L'invitation au voyage de Baudelaire, et ça je crois que c'est la plus émouvante des chansons construites à partir d'une poésie.
Suis-moi là oh.
Ah, quelle horreur!
Qu'est-ce que c'est que cette version?
C'est
Nicolas Carreau!
C'est le groupe Poésie, mais en fait, c'était Les Inconnus.
Ah ouais, ah, d'accord!
On a eu peur!
Mascal, mais Volupté, Baudelaire!
Vous auriez pu choisir.
C'était le groupe Poésie.
Vous auriez pu choisir Léo Ferré. Ah bah il a repris tous les poèmes de Verlaine, de Rimbaud.
Mais vous aussi,
de...
vous avez donc chanté une chanson à partir d'un poème de Victor Hugo.
Une chanson de Victor Hugo, demain comme vous nous disiez tout à l'heure. Ouais. Très bonne chanson de Victor Hugo.
Demain dès l'aube.
Il y a aussi cette chanson
qui fait « Ah, qu'est-ce qu'on est serré
de cette qu'est-ce boîte. » Qu'est-ce qui est con, c'est pas vrai.
Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines.
Chante les sardines, c'est beau. Il y a une redondance comme ça.
Entre l'huile et les aromates.
Ah, ah mais faites
qu'est-ce
taire.
Qu'on est serré au fond
mais
de
ferme
cette
ta gueule.
Boîte.
Arrête, Florent. T'es en train d'humilier la poésie et de foutre en l'air la promo du Cobu. Merde, Ellie, c'est pas vrai.
Ellie, avec Eva, on a vu du Cobu 3, mais on a hâte de voir les bonus, les coulisses du tournage, parce que
mais
à mon avis, ça va être sympa.
Il n'y en a pas eu tant que ça. En fait.
C'est vrai.
Mais on s'est bien marré. Hein, mais vrai, non, on n'a pas eu de bêtises, quasiment pas de bêtisiers. C'était sérieux, en fait. Vous savez, c'est sérieux de faire une comédie.
C'est sérieux l'humour.
C'est sérieux
l'humour. Mais ça se sent, si je peux me permettre, ça se sent dans la réalisation. Parce que vous parliez tout à l'heure de pas d'improvisation avec les comédiens. Mmh. Mais on sent aussi que vous avez vraiment travaillé la réalisation. L'image, elle est vraiment, c'est très cadré. Oui. Les décors sont...
Il a bien tenu la petite caméra avec
ses
petites
mains. Non, mais les décors sont très réussis. Et les plans sont très réussis, franchement. Et les décors, il y a plein de références aussi que les adultes comprendront.
Oui, Shining, voilà,
Shining, Psychose, etc.
Il y a divers degrés de lecture.
Oui, exactement.
Oui, oui, d'ailleurs... Quand on a fait notre projection au Rex, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah bah je m'attendais pas à ça, un adulte hein. ». Et ça m'a vexé, je me suis dit « Ah bah tu t'attendais à quoi, pauvre con un film
toujours
pour enfants ?»
Tu lui as dit oui, « Vous avez avec votre spectateur, Ellie. Vous avez toujours su cultiver. »
Ça voulait dire « Je m'attendais à voir un film pour enfants et basta, à m'emmerder à côté de mon fils qui regarde le film. » Et à envoyer des textos, mais pas du tout. Ça plaît aussi aux adultes, ouais. Ça fait beaucoup rire les adultes.
Il vous donne rendez-vous mercredi prochain dans Duc au but 3. Florent Père et Ellie Semoun sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
C'est le moment le plus sauvage de l'équipe et sauvage qui se profile. Un quiz d'une rare violence opposant chaque après-midi nos invités à Eva Rock. Aujourd'hui, en hommage à la sortie de Duc au but, le thème sera évidemment l'école, lieu, soyons honnêtes, qu'a peu fréquenté Eva, qui préférait faire des tours en mobylette dans les ruelles du Vieux-Nice avec des Italiens dont la pilosité l'émoustillait. Elle risque aujourd'hui de le regretter, car dans notre quiz, comme dans Koh-Lanta, la sanction est immédiate.
Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Allez, tu peux déjà faire ton sac.
C'est drôle.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage du vendredi en public. Public galvanisé par la présence aujourd'hui en studio d'Ellie Semoun et Florent Père, venus nous présenter le troisième volet des aventures de l'élève du Cobu. On continue d'en parler, seulement voilà, l'heure est venue de faire chauffer nos cervelles. Voici notre quiz. Séquence qui ne devrait pas faire peur à Florent Père, qui a déjà démontré par le passé d'indéniables qualités dans l'exercice du jeu télé. Les fans dont ne demandent qu'à en rire s'en souviennent.
Top, je suis
ostréiculteur dans les Alpes.
Non, je suis l'ami des tout petits.
Émile Louis.
Ah non. Non, je suis orange un petit peu gros.
Bon dîner.
De beaux souvenirs ça, Florent Père, hein, demande qu'à en rire. Une bonne école. Hein.
Ah, la meilleure.
Il fallait sortir un sketch par jour, c'était quoi le
non,
rythme
non, non, non,
mais un sketch à chaque émission
par, un ou deux sketchs par semaine. Ce qui, à l'époque, moi, me semblait gigantesque. Mais après, ça, le sujet était imposé, c'était un sujet d'actu imposé. Et puis nous, moi, je m'imposais avec Claire Jazz, ma metteur en scène à l'époque, de créer un nouveau personnage à chaque fois. Pas de jamais revenir avec quelque chose qui avait marché. Donc ça rajoutait un peu de
piment. T'as fait ça, vraiment ?
Ouais.
Enfin, longtemps ?
3 ans.
3 ans.
Mais Jean-Élie, vous le découvrez pas.
Mais si.
Tu t'étais renseigné sur moi.
Non,
c'est là qu'il a explosé.
Je te jure, mais pas du tout.
Mais vous
c'était
fait...
Ruquier le...
Ouais.
Le... Ouais. Ah mais ça alors.
Vous avez fait combien 80 sketchs à peu près, c'est ça, ouais. Hein, 80
sketchs. Plus les trucs collectifs et tout, puis une petite centaine.
Je regarde pas la télé, moi.
Il y en a plein.
Mais c'est là, c'était une super école parce que en fait. De jouer un sketch.
Il a levé le bras, ça veut dire qu'il a envie que ce soit pire.
Quelle ordure! Quelle ordure!
C'est là,
cette Ellie Semoun. Non, dès que l'autre star prend la parole et s'exprime, Ellie, tout de suite, trouve le temps un peu long.
C'est tout.
Mais oui, t'existes! Oui, tu veux de la lumière!
Prends-en un peu!
Il est con! Vas-y, vas-y!
De toute façon, les amis, l'heure n'est pas à la nostalgie, l'heure est à la compétition.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était vrai.
Tu vois, j'avais raison. Je suis pas con quand même, merde. Il s'en fout des invités. Tout ce qu'il veut, c'est suivre sa ligne. Il s'en tape, il
c'est
en a rien
quiz.
À foutre de nous.
Vous allez voir, c'est passionnant en plus. Et les vous qui aimez apprendre. Déjà que vous avez appris que Florent Père avait fait de la télé avant de vous rencontrer, vous qui pensiez l'avoir sorti du ruisseau, vous apprenez des trucs.
Pas.
Donc taisez-vous un peu et écoutez-moi. Ellie Semoun, Florent Père, Eva Rock, deux hommes, une femme, la combinaison idéale pour un quiz thématisé.
C'est vrai que sur. En manquant en rire, c'était quand même.
Jusqu'à la fin de l'émission, il va raconter son histoire. C'est con.
Le principe est simple. Une question, trois propositions. Florent et Ellie, vous jouez ensemble. Eva, vous êtes toute seule, ce qui ne va pas beaucoup vous changer. Il faut trouver une bonne proposition. Florent et Ellie, vous devez vous mettre d'accord avant de faire votre choix. C'est ça qui est important.
Okay. Ah, c'est marrant, parce que c'était pareil quand on écrivait les sketchs sur Un monde qu'en rire. On devait toujours se mettre d'accord.
Allez, lève le bras, Mathieu.
Végrau est une école maternelle de New York. Elle a une particularité, son coût, 44 000 euros l'année. Du coup, elle n'est fréquentée que par les familles des plus fortunées de la Big Apple. Que s'est-il passé l'année dernière pour cette école ? 1. Elle a fait faillite. 2. Un des parents mécontents d'un prof a racheté l'école pour virer le directeur. Ou 3. Ils ont ouvert une classe pour les enfants des sans-abri de la ville.
Oh oui, le troisième choix ?
Non, le
2. Bah non, c'est bien américain ça, racheter le truc pour...
C'est ça, je dirais que c'est ça.
Ouais, le 3.
Non, c'est le 2.
Tu m'as dit le 2.
Le 2, c'est... le 2, le gars qui a racheté...
Ah,
le 3,
non.
C'est les sans-abri.
Oui, moi, c'est les sans-abri.
On sent le mec de droite, le mec de gauche.
Eh ben moi, je dis, clairement. Moi, je dis que c'est un des parents qui a racheté.
Oui. Vous dites que c'est un des parents qui a racheté. Sûr. Eh bien, vous avez tous tout faux.
Bah oui,
elle a fait faillite, cette école. Et comme la fermeture de l'école a eu lieu en milieu d'année scolaire, tous les élèves ont dû s'inscrire dans le public. Quelle horreur. Ça leur a fait les pieds. Aux États-Unis, comme partout, les profs ont parfois du mal à imposer le calme dans les classes. En mai de l'année dernière, un nouveau type de punition est apparu dans plusieurs écoles. Laquelle ? Des profs menaçaient de spoiler la fin de Avengers 4 aux élèves. Des profs signalaient à la cantine et les élèves turbulents et ils ne pouvaient manger que des légumes. Ou des profs publiaient sur Snapchat des vidéos où les élèves étaient filmés en train de copier des lignes.
Moi, je pense que c'est le spoil, la première. J'irai la première.
Réponse 1 pour Eva. Spoiler la fin d'Avengers.
Snapchat.
Moi, je dis Snapchat.
Vous dites Snapchat ?
Ouais. Snapchat.
Eh bien, vous avez tort, un point pour Eva Rock.
Yes.
Effectivement, les profs faisaient du chantage au spoil.
Non.
Le principe est simple, ils écrivaient au tableau des phrases à trous, genre X meurt ou Iron Man devient Y. Et en cas de bavardage, hop, les profs remplissaient le tableau.
Ah, c'est marrant.
C'est une bonne idée.
Ouais,
bonne idée.
C'est drôle.
Très bonne idée.
Quittons l'école pour l'auto-école. Alors là, accrochons-nous. Aux Pays-Bas, une pratique étonnante est possible. Laquelle ? On peut payer ses leçons de conduite en nature. On peut conduire d'abord et passer son permis un an après.
Conduire.
Où on peut donner des leçons sous hashish, mais pas sous alcool.
Moi, c'est la première.
Vous n'avez pas hésité l'espace d'un...
Bah non, ça seconde. Me ferait trop plaisir de payer en nature pour des...
Oh, mon Dieu, Eva, je vous construis déjà un personnage suffisamment sulfureux comme ça, c'est vraiment
mais
pas la peine d'en rajouter. Messieurs.
Le 3, parce que le hashish est légal là-bas. 3.
Ouais. C'est un bon raisonnement. Hein. C'est un raisonnement qui se tient. Moi, j'aurais répondu ça aussi. Eh bien, non. C'est le vice qui paye. Non, non, c'est le vice qui paye. Eva Rock a encore raison. Écoutez bien, les moniteurs aux Pays-Bas peuvent être payés en nature. C'est la loi du ride for ride.
Oui, mais nature, ça ne veut pas dire forcément...
La personne qui offre une prestation sexuelle doit être majeure et consentante. Normalement, quand on veut se prostituer, il faut un permis. Là, pas besoin, c'est du troc. Un beau pays.
C'est quand même
dans la communauté européenne.
Ellie, reviens, pourquoi tu t'en vas à Amsterdam?
Ah, je vais passer mon permis.
Dans les collèges californiens, on est particulièrement attentif aux élèves sujets à la dépression. Que s'est-il passé à Lancaster, au nord de Los Angeles, en octobre dernier? Un collège a loué les services d'un clown pour qu'il repère les élèves en difficulté, mais ils ont arrêté car ça faisait trop peur. 4 lycées ont rendu obligatoire la lecture d'une blague en classe en début de journée. Où un numéro de SOS Détresse a été confondu avec une ligne téléphonique érotique. On leur a donné un... Vous avez compris.
La blague,
ouais, Eva.
La première, l'histoire du clown, là.
L'histoire du clown. Vous avez tous tort. Les étudiants du district scolaire de Lancaster, au nord de Los Angeles, avaient tous une carte avec au dos un numéro d'urgence à appeler en cas de début de dépression. Petit problème, c'était un numéro de téléphone rose. L'histoire ne dit pas si ça a marché quand même. En début d'année, Cherry Line et Philippine, deux élèves fraîchement sortis de l'école de biologie industrielle de Cergy, Pontoise, en France, ont inventé quelque chose qui révolutionnera peut-être notre assiette. Quoi donc ? Un œuf fait sans poule. Une glace chaude à manger très vite. Ou du sel qui devient visible et se solidifie au contact de l'air.
À quoi ça sert ?
Un œuf sans poule.
Les trois inventions ne servent à rien.
Un œuf sans poule ?
Ouais, moi j'aurais dit la poule.
Mais qu'est-ce
aussi.
Que ça veut dire, un œuf sans poule ?
Trois points pour vous et pas pour Eva parce qu'elle a dit après vous.
Ouais,
c'est la décision qui vient de tomber. L'œuf sans poule, 100% vegan, Ellie.
Oui.
Il est vegan. Et oui, les deux femmes sont ingénieures en biochimie après avoir enquêté sur ce qui manque le plus aux personnes qui ont adopté le régime végétalien. Et donc rien qui vienne d'animaux morts ou issus de l'exploitation d'animaux vivants. La réponse est unanime : l'œuf. D'où l'invention astucieuse d'un œuf sans poule. Qui remporte ce quiz ? Oh, Florent Père et Elise Moon remportent le quiz ! Ça, c'est vraiment incroyable !
C'est incroyable !
Incroyable !
Non, mais attendez, je reste sur l'œuf sans poule, pardon.
Ça vous laisse sans voix.
Je ne comprends pas.
En fait, ils ont reconstitué un œuf, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé à la fois sur le goût
ils
et sur la texture.
Ils ont mis de l'albumine, du jaune, du...
Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais
surtout, elles ont mis fin au débat. Qui de la poule ou de l'œuf ?
Ah oui.
Ah oui. Effectivement, je vois pourquoi vous l'avez embauché.
C'est marrant parce que ça me rappelle un sketch que j'avais fait sur On demande qu'en rien.
Tu étais dans une poule.
C'est pas vrai. Allez, chronique suivante, s'il vous plaît,
ce
Mathieu.
Sont
allez.
Deux monstres de la comédie qui nous accompagnent cet après-midi, Florent Père et Élie. Reste avec nous. Dans un instant, on vous fait découvrir un concept étonnant pour cinéphiles gourmands. Après la 3D, après la 4DX, le concept novateur du resto ciné, vous mangez ce que vous voyez à l'écran. Selon le film, ça peut être génial ou vraiment très con.
Où sont les poulards ? J'ai faim ! Où sont les fèvres ? Les pâtés de serre ? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre ? Un porcelet ? Une chèvre en rôti ?
Bon appétit ! Mangez ce que vous voyez, un concept qu'on vous fait découvrir juste après Imagine Dragons, Bad Liar sur Europe 1. Bad Liar, c'était Imagine Dragons sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est toujours porté par la ferveur d'un public extatique que l'équipe est sauvage continue avec Florent Père et Elie Semoun, que vous retrouvez la semaine prochaine à l'affiche de Duc au but 3, le film idéal des vacances de février, qui vous coûtera en plus moins cher qu'un forfait à Méribel. Oh et oui. Justement, ici, chaque jour, vers 5h-10, on part s'oxygéner en région. Pourquoi ?
Pour éviter la consanguinité.
Oui, Nicolas, mais aussi parce que nos régions ont du talent. Bonjour Jean-Luc Boujon.
Bonjour Mathieu.
Jean-Luc, vous allez nous parler d'un restaurant très original qui cartonne à Lyon, le Pop Corner. En fait, c'est un ciné-resto. On voit un film et on mange ce qu'on voit dans le film.
Génial.
Ouais, c'est une super idée. Ce sont deux restaurateurs cinéphiles qui ont eu cette idée de mixer ciné et gastronomie. Donc en partant d'un film, soit ils cuisinent des recettes du film, soit ils déclinent un menu à partir du thème général du film. Par exemple, mercredi soir, le resto a diffusé Trainspotting, le film de Danny Boyle de 95. Ah oui. Et le chef a préparé un plat typiquement écossais avec un ragoût de mouton au whisky. Une autre fois, c'est encore plus original, je trouve, c'est Pulp Fiction qui a été projeté. Et les chefs Johan et Alexandre ont préparé un repas autour du fameux Big Kauna Burger, hein, le hamburger dont Samuel Jackson raffole dans le film avec une tranche d'ananas rôti. Je crois que ça a très bien marché. Hein.
Et c'est comme ça deux fois par semaine.
Oui, il y a deux projections par semaine, le même film. Hein. C'est une surprise, on découvre tout le matin même sur Facebook et on s'inscrit. Faut faire vite car les soirées sont littéralement prises d'assaut. Et il n'y a que 30 places dans la salle de ciné qui a été aménagée à l'étage. Johan et Alexandre ont agencé ça un peu comme à la maison, hein, avec des canapés chinés sur le bon coin. Ils sont un peu vieux, mais ils sont très confortables. Il y a un rétroprojecteur.
Comme
et puis hop, la séance peut commencer.
Oh,
j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça.
Non, mais vous non, mais lui oui.
Et surtout, bah, les invités ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont manger. Hein. C'est même assez amusant d'imaginer ce qu'il va y avoir dans l'assiette en fonction du film projeté. Parce que franchement, Johan et Alexandre font feu de tout bois. Écoutez ce qu'ils ont préparé récemment.
Into the Wild, où c'est quelqu'un qui survit dans la nature. Donc on avait fait tous des plats inspirés de la nature avec des champignons, des mousses aux herbes, du cerf, parce qu'à un moment, ils chassent un élan dans le film. Tout est inspiré du film. On peut manger ce qui est des fois dans le film. Des fois, c'est des clins d'œil, des jeux de mots. Par exemple, on avait fait la soirée Fight Club. Donc c'est un film qui parle de baston. Et du coup, on avait fait tous des plats qui font des jeux de mots avec le champ lexical de la bagarre. Donc il y avait des tartes, des nions, des marrons, des patates, voilà, des choses comme ça.
Des nions, alors c'est quoi des nions à manger?
Non, on n'a pas fait les nions, c'est une petite fourche, mais on aurait pu faire des pignons. J'y pense
des rognons.
Des rognons, ça aurait été sympa également. C'est vrai.
Bon, vous voyez un peu l'esprit des deux gars,
c'est
super
génial.
Drôle. Et c'est très créatif, surtout quand on sait que Johan et Alexandre étaient à la base ingénieurs. Ils s'ennuyaient un peu, donc ils ont tout plaqué pour monter ce resto.
Et alors c'est quoi le prochain film, Jean-Luc?
Bon, normalement, Mathieu, c'est secret jusqu'à mardi prochain.
Ah, mais,
mais en exclusivité pour Europe 1, parce que Johan est un auditeur, il faut le dire. Ils ont accepté de tout me dire. Le film, ce sera Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, avec en entrée Salade d'endives. Hein. C'est un hommage à Jamel Debbouze, qui est l'épicier dans le film, qui ramasse les endives comme des petits oiseaux. Ensuite, cuisine de bistrot parisien, petit gratin dauphinois, poulet rôti aux échalotes. Et en dessert, la crème brûlée, la fameuse crème brûlée dont Amélie Poulain adore craquer le sucre caramélisé. Autre avant-première, hein, je vous le dis, il y aura une soirée à venir, Men in Black, avec que des plats noirs, notamment encre de sèche, voilà ce genre de choses.
Et il est où ce resto, Jean-Luc, qu'on réserve ?
Alors c'est le Popcorner, c'est sur les pentes de la Croix-Rousse, hein, c'est un peu le quartier Canaille de Lyon, rue Camille Jordan. Et j'ai oublié de vous dire quand même le prix, c'est 25€ tout compris, le menu, entrée, plat, dessert et puis la séance de ciné.
Oui, auquel il faudra rajouter le vin pour Eva.
Oh
merci
là là.
Beaucoup Jean-Luc Boujon pour
pas
ce
que pour
bon
elle,
plan
pas que pour
Lyon.
Elle.
Oui, surtout à Lyon. Merci Jean-Luc. La première fois qu'il a fait l'équipe sauvage, il a été choqué.
C'est atroce de se noter entre amis.
On n'est pas amis. Hein.
Mais cette fois, Élie Semoun est prêt pour la violence, les coups bas, les mesquineries et les immondes vacheries que nos journalistes balancent hors antenne les uns sur les autres.
Je ne sais pas comment il est physiquement.
Il va arriver.
Il n'est pas gros comme Obélix, mais en revanche, c'est un miracle qu'il ne soit pas gros.
Il n'est pas maigre non plus.
Pour respecter son animat et ne pas le froisser, j'ai évidemment coupé le moment où on citait le nom d'Olivier Pouls. Bref, à tout de suite avec de nouveaux compétiteurs.
Sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'ambition de la Ligue des Champions, le niveau de la Coupe de la Ligue, l'équipée sauvage arrive à la mi-temps. À l'arbitrage, Florent Père et Elise Moon venus nous présenter Ducobu 3 qui sort la semaine prochaine. Leur voix comptera triple au moment de désigner tout à l'heure notre chroniqueur du jour. Visiblement, Florent a déjà une idée. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que vous fabriquez?
On se prend la main, c'est tout. Parce
vous vous prenez la main?
Oui. Ah bah.
Qu'est-ce qui s'est passé
buzz,
sur le tournage de Ducobu?
Parce qu'il faut toujours. Il y a toujours une phrase qui va sortir comme ça.
Je t'aime.
Bah oui, voilà. On s'aime.
J'invite toi. Mon Dieu. Il reste avec nous. Je vous rappelle qu'ils votent tout à l'heure et que leur voix compte triple. Il y a quatre journalistes qui se disputent la précieuse couronne que vous voyez ici ou que vous ne voyez pas puisqu'on est en radio. Le suspense est immense et à ce stade, une seule question se pose. Question obsédante, Ellie.
Alors, les deux nouveaux ringards, qui sont-ils?
Ne soyez pas impatients, Ellie. Nous saurons qui sont les deux nouveaux ringards dans quelques secondes. Maintenant, juste après une petite pause info.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures hybrides à la croisée du journalisme et du rire, un peu comme si un réalisateur bourré avait décidé de faire un mash-up de Game of Thrones et de la cage aux folles.
J'ai cassé ma biscotte.
L'équipée sauvage en public le vendredi pour fêter la sortie mercredi prochain de Ducobu 3 avec Elise Moon et Florent Père, nos invités. Ellie, c'est vous qui réalisez, c'est donc vous qui avez choisi Florent Père pour incarner un animateur télé.
C'est moi qui ai fait cette
bien
connerie.
Bien sudique.
J'assume. Hein.
Alors, j'avais prévu cette question, vous le connaissiez bien avant le tournage, j'ai déjà la réponse, non, puisque tout à l'heure vous avez découvert quand même dans notre émission que Florent Père était une star de On ne demande qu'à en rire.
Je vous jure, je ne savais pas, mais je ne regarde pas la télé, pas souvent, donc
mais alors comment,
mais je t'assure, je ne savais pas du tout. comment, non mais
comment
je le connais parce que je suis humoriste et que c'est mon métier et qu'on se connaît tous, donc forcément... je le connais.
C'est le Florent Père sur scène que vous aviez vu.
Voilà, exactement. Tout à fait.
On continue de parler du Cobu 3. Ouais. Et tu sais que c'est vrai qu'on va continuer d'en parler.
Oui, oui.
Parce que tout à l'heure, tu. Hein bon, bref.
Pourquoi
tu avais mis en doute.
Tutoyer, des fois
c'est vrai,
vous
pardon.
Voyez,
je me laisse en doute.
Vous
vous prenez pour qui, vous, précisément
je me
vous savez qui c'est?
Attention,
c'est Elise.
Attention, Florent.
Parce que tu redescends d'un étage derrière ton petit micro. Et puis tu respectes le monument d'humour qui est là.
Il a foutu la merde sur le tournage. Il a frappé un enfant. Il s'est battu avec un enfant.
Il m'avait volé mon pépito.
Dessus.
Okay, bah,
évidemment. Face à vous, messieurs, ne nous laissons pas induire en erreur par ces lunettes de pédocriminel belge des années 80. C'est un homme résolument tourné vers l'avenir. Directeur de la revue Ciel et Espace, Alain Sirou est un scientifique passionné qui a l'art de rendre passionnant tout ce qu'il raconte avec un teasing toujours péchu et alléchant. Écoutez, comme avait pu le constater Elise Moon la dernière fois.
Il s'appelle Pete Conrad et Alan Bean. Ils ont marché sur la Lune, tout simplement, numéro 3 et 4. Mais pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi on s'en souvient pas? Je vous raconterai dans ma chronique. Voilà, c'est le teasing de ma chronique.
Et c'est pour ça que l'émission marche, c'est parce qu'il y a du suspense. La semaine dernière, je me suis dit, merde, personne ne parle d'Apollo 12. Eh ben, merci Europe 1.
Merci Europe 1 et merci d'avance, Alain Sirou.
Bonjour.
Alors, Alain.
Pédocriminel. Alors là, tu m'as tué.
T'as plus celle-ci. Hein.
Ah, tu m'as tué.
Eh oui. Eh oui. De l'astronomie, nous revenons ce soir à la biologie, mon cher Alain.
Autrement maintenant.
Bah, lui aussi, à travers ses lunettes, il vous voit.
Bon,
bah,
je
vous nous faites découvrir Alain, et pour certains autour de cette table, le mot découverte est le bon, l'organe le plus complexe de l'univers, le cerveau.
Oui, le prof de science à l'école, c'est pas le plus rigolo généralement. Donc, comme on a résolu le problème de la poule et de l'œuf, maintenant, c'est réglé. Hein.
C'est réglé avec l'œuf artificiel.
Depuis qu'on a découvert des œufs chez les dinosaures, on sait que les poules n'existaient pas encore, donc on sait.
Ah, non, d'accord.
Voilà. Non, mais c'est une information importante.
Voyez, tout de suite, la
science. Donc voilà, je me suis dit comment on intéresse et comment on amuse les enfants à l'école en leur parlant de science, et j'ai décidé de leur parler un peu de cerveau.
À ses côtés, messieurs, sa seule présence parmi nous est le gage qu'un débat de haut niveau va s'engager autour de cette table. Chef du service Société d'Europe 1, les sujets que nous propose Eve Roger font toujours l'objet de discussions passionnantes et argumentées, comme mercredi lorsque nous avons discuté de l'art du baiser en présence d'Alessandra Sublet.
Je crois bien qu'il n'y a pas une seule fois le mot sexe.
Il n'y a pas de mot, c'est pas...
Mais le baiser, enfin, excuse-moi, le baiser c'est avec la langue, non?
Bah oui, mais la langue c'est pas le sexe.
Bah non, si on confond la bibite et la langue...
Mais que reste-t-il à France Culture? Et la question que je me pose parfois quand je nous réécoute en podcast. Bonjour Eve Roger.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour.
De quoi allons-nous débattre aujourd'hui?
Alors, je suis assez inquiète, mais je vais essayer de vous parler du sentiment qu'on a tous connu, l'immense détresse du premier chagrin d'amour qu'on ait 8, 12 ou 18 ans.
Et, vous allez surtout, si je ne m'abuse, donner des conseils aux parents pour savoir comment consoler
Je vais,
leurs
encore une fois,
ados.
Je vais essayer parce que je suis un peu inquiète.
Vous avez raison de l'être.
Aucune inquiétude.
L'art de consoler un ado qui chouine après son premier chagrin d'amour ou le gros cerveau de tonton. Ou le gros cerveau de tonton Sirou, quel sujet l'emportera? La réponse tombera juste après 18h. Juste avant 18h, c'est mieux parce qu'après 18h, c'est
on
l'autre émission. C'est l'émission avec Nathalie Lévy. Alors on vous donnera la réponse avant 18h. En attendant, je me tourne vers nos invités, ou plutôt vers Florent Père, car Elise Moon a déjà eu droit à son micro-trottoir la dernière fois. On vous a donc posé la question, qui est pour vous Florent Père? Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas coupé les éventuelles vaches.
Ah oui, je connais Florent Père. Je crois qu'il est petit, un peu poilu, il a toujours la chemise ouverte.
Si, voilà, il fait dans Vendredi, tout est permis.
Et les cheveux en arrière avec une petite calvitie.
Il est bien excité.
Il a l'air fou un peu.
Ouais, c'était la bande à On ne demande qu'à en rire là, avec Ruquier au début.
Il y a beaucoup de personnes qui sont pas en accord avec ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut prétendre. Mais après, ça reste de l'humour, je trouve.
Je crois qu'il est con un peu.
Mais il est pas con.
Non, mais genre, il est marrant, genre, il fait le con et ça fait marrer les gens.
Il a du charme, on va dire. Pour son âge, ça va. 47, non? Il a moins?
Je le trouve sympathique parce qu'il répond assez vite aux blagues des autres.
Florent Père?
Je crois qu'il crie un peu, donc on l'entend beaucoup plus.
Et ça tranche dans le vif.
Ouais, il me fait rien.
Alors Florent Père, vous êtes poilu, ça c'est vrai, mais vous n'avez que 47 ans, je pourrais donner beaucoup plus.
Ouais, c'est quoi, ils doivent se confondre avec Harry Habitant, non? Non, mais on pourrait le décrire comme ça, non?
Oui, c'est vrai.
Ça doit être des gens qui confondent. Mais on leur montre la photo quand même. Donc.
Ah oui, alors. Ah non, ils sont pas quoi. Non, alors ils ont.
Vous savez, on les aide quand même.
J'ai essayé de te sauver, mais là, franchement.
On pouvait pas le sauver. Florent Père, j'ai découvert cet été, puisque effectivement, je vous ai croisé, c'est une véritable histoire, dans une boîte de nuit de la Côte d'Azur. Il paraît que vous avez été, avant d'être humoriste, vous avez été champion sportif de haut niveau.
Oui, j'ai été en sport-études ski nautique. À Saint-Raphaël, dans le Var. Tout à fait. Voilà, j'ai fait 8 ans dans ce Pôle France, ski nautique, mais j'ai pas eu un très très haut niveau. Mais enfin, j'étais.
Si vous étiez dans le Pôle France, et vous aviez quand même un bon niveau.
Ben, mon père avait racheté le Pôle France et. Comme aux États-Unis. Non, oui, j'avais un petit niveau national. Voilà.
Et alors, vous nous avez fait une Julio Iglesias. On sait que Julio Iglesias, c'est un jour, il jouait au foot, il était gardien du Real Madrid, il s'est cassé la jambe et il a découvert la musique quand on lui a offert une guitare à l'hôpital. Vous avez découvert l'humour à ce moment-là? Comment ça s'est passé?
Oui, j'avais pari de 0 à 21 ans. Là, je faisais du sport, je soulevais des haltères sans jamais rire.
Et d'un coup, t'as offert une cassette des petites annonces et puis là, t'as fait.
C'est ça!
C'est possible!
Je ne m'y risquerai pas, c'est trop bien fait.
Et il n'y a pas eu d'année de galère pour vous? Ça a tout de suite été On ne demande qu'à en rire ou il y a eu des petites salles?
Non, galère. Non, j'ai eu 3 ans avant On ne demande qu'à en rire où je vivais déjà de mon métier, mais ce n'était pas la galère, ce n'était pas l'opulence, mais j'étais déjà tellement heureux de faire que ça. J'ai fait un an où j'étais vendeur sur les marchés et dans les foires et c'était pas vraiment la galère et donc pour l'instant il n'y a pas encore eu de galère, ça peut venir.
Et vous bientôt. T'inquiète pas.
Vous étiez fan d'Eli avant de le rencontrer?
J'aimais bien Dieu donné, mais Eli non.
Vous les retrouvez.
Vous êtes trop con.
Vous les retrouvez à l'affiche de Duc au but 3
les auditeurs
mercredi d'Europe prochain.
Le savent.
Elie Semoun et Florent Père passent l'après-midi sur Europe. Europe 1. C'est une vérité difficilement contestable. Un ado, c'est chiant. Et c'est encore plus chiant lorsque c'est triste. Lorsque l'ado vit son premier chagrin d'amour.
Cher journal intime, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Julien en aime une autre et l'autre, c'est Kevina, ma meilleure amie, ma confidente, virgule. Cette petite pute va peut-être se faire dépuceler avant moi.
Comment consoler votre ado après son premier chagrin d'amour? Comment trouver les mots? Mon père s'était pas emmerdé.
Ça va bien une connerie maintenant.
Gageons qu'abroger aura une méthode plus constructive.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
La tension monte dans l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 en public le vendredi. 2 heures pour soigner vos neurones sans négliger vos zygomatiques avec 2 invités d'honneur à l'affiche mercredi prochain de Duc au but 3, Elie Semoun et un autre comédien humoriste qui a aussi, Elie, un énorme talent.
Ça, c'est ce que dit sa femme.
Qu'on embrasse, Florent Père est avec nous également. Tous les deux, vous voterez tout à l'heure pour votre chronique préférée. Justement, voici notre troisième concurrente du jour, une des plus féroces compétitrices de l'équipée sauvage. Longtemps leader du championnat, elle a décroché mi-décembre. Désormais, elle est à la quatrième place, la bien nommée place du con. Elle est prête à tout pour refaire son retard. Et quand je vous dis à tout, vraiment à tout.
Même avec la langue.
Oui. Alors, un projet. Ce soir, une chronique éminemment pragmatique. Comment consoler son ado lorsqu'il rentre à la mine basse, chouinant tout son sou après son premier chagrin d'amour?
Alors, d'abord, il faut reconnaître le premier chagrin d'amour. On le reconnaît au fait qu'on s'en souvient très précisément, en particulier du nom et du prénom de la personne qui nous l'a infligé.
Oh, la Jessica oui. Guillaume.
Ensuite, des circonstances, évidemment, et puis de l'âge qu'on avait.
Ouais, 12 ans.
12 ans, voilà. Et là, on va écouter Paul. Il m'a demandé de changer son prénom, comme tous ceux que j'ai interrogés. Donc là, c'est Paul, c'était il y a 20 ans, et là, elle s'appelait Jessica.
12 ans, ça reste vraiment très mignon et tout ça, sauf que je comprends aussi qu'il y a un autre garçon dans sa vie, un Espagnol, qui habite Barcelone. Et en fait, je me rappelle bien de revenir à la maison de mes parents, d'aller au fond de la maison, dans le bas du lit superposé, et de pleurer vraiment mais toutes les larmes de mon corps. Et ma sœur, qui a été à ce moment-là mais hyper précieuse, hyper protectrice, qui m'a fait un immense câlin en me disant « Mais tu t'inquiètes pas, tu t'en remettras, tu trouveras plein d'autres filles. » Et surtout, m'avait-elle dit « Cette fille-là ne te mérite pas. »
Et voilà, ça fait une phrase qui réconforte. « Cette fille-là ne te mérite pas. »
Moi aussi, on me l'avait fait le coup de l'Espagnol qui habitait à Barcelone. Ah, ouais. Sauf que je n'avais pas de sœur, moi. J'ai pleuré tout seul.
Et puis, vous allez entendre Louise. Maintenant, elle était encore à l'école primaire.
Moi, j'étais en CM1, CM2. Je m'en rappelle tellement. Il était tellement beau. Il s'appelait Jérémy. Et puis, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été le voir et je lui ai demandé s'il voulait être mon amoureux, quoi. Et il m'a dit que non, qu'il aimait pas les rousses. C'était horrible. J'étais triste comme les pierres. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal au cœur. Jamais, même après. C'est le plus douloureux, le premier.
Pourquoi, Eve, c'est souvent le premier chagrin d'amour qui est si douloureux?
Parce que c'est le premier.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le premier.
Ne cassez pas sa chronique.
Non, on est sans expérience. Les sentiments à l'adolescence sont évidemment exacerbés, vous savez, les hormones. Ça, c'est vrai, mais pas seulement. Et moi, j'ai appris grâce à la psychanalyste Catherine Blanc que notre premier amour, il est le plus douloureux parce que c'est aussi notre première infidélité à nos parents. On s'autorise à aimer quelqu'un d'autre qu'eux.
Ah oui, on se laisse embarquer par l'amour
plus,
d'un autre.
Ça finit mal. Ouais. Donc c'est comme si on était puni de cette infidélité, d'où ce souvenir qui est absolument cuisant.
C'est pour ça que j'ai pas vécu ça, parce que mon premier amour et mon
c'était
premier rapport
mère.
Sexuel, c'était ma mère.
a anticipé l'horreur de Florent Père. Quelle connexion entre vous deux.
C'est mieux quand ça reste dans la famille, on est sûr que ce sera bien fait.
Du coup, un film familial et divertissant. Rendez-vous le 5 février, les copains.
Alors justement, Eve, les parents normaux.
Il fallait bien que ça dérape
par
un moment.
Comment doit-on réagir face au premier chagrin d'amour de son enfant?
Alors, surtout pas relativiser, pas minimiser sur le thème une de perdue, 10 de retrouvée. Oh. À ton âge, l'amour, c'est pas sérieux. Ou encore, c'est pas grave, ça va passer. Si, c'est grave. C'est grave. On va entendre maintenant Agathe. À l'époque, son amoureux s'appelait Nicolas. Elle avait 18 ans et elle avait des remèdes anti-chagrin d'amour un peu particuliers. Écoutez.
Surtout, en fait, je me souviens du sentiment, en fait, du mal-être absolu, total, où je me réveillais à 5h du mat, j'allais courir dans le parc à côté parce que juste, j'arrivais ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Donc, j'allais courir en écoutant du Jacques Brel à fond dans mon appart. Enfin, je buvais du martini à 5h du mat. Il fallait que je vive des trucs dans mon corps, dans ma chair, parce que rien n'allait plus, quoi. J'avais le cœur déchiré.
Mais moi, elle avait 12 ans à l'époque ?
Elle avait 18. Ah, elle avait 18, c'était son premier chagrin d'amour.
C'est tellement vrai. C'est vrai. Je me souviens, je me mettais mon Walkman avec les Boys to Men. À fond.
Ce qui ne devait pas ranger votre affaire avec les...
Pendant que Jessica allait faire des bisous à Alex.
Mais moi, je me rappelle aussi d'une Valérie. J'avais fait du stop des Landes jusqu'en Espagne pour m'apercevoir qu'elle me trompait avec un gars.
Mais non.
Et j'étais revenu en stop en pleurant du début jusqu'à la fin du parcours.
Mais t'avais quel âge ?
C'était l'année dernière. Non. J'écoutais. J'avais 18 ans. Et j'écoutais les Smiths, je me souviens.
Et donc, vous voyez, chaque chagrin d'amour raconté, il y a toujours quelque chose de très sincère et qui est très émouvant en réalité. Donc, pour finir, Mathieu, pour vous, quand votre fils sera grand, donc il faut laisser l'ado traverser l'épisode, juste être là, lui laisser raconter ce qu'il a envie de raconter, pas d'intrusion, surtout pas lui raconter, tu sais, moi, à ton âge, ça m'est arrivé comme ci, comme ça.
Ah, ça, c'est
il
nul.
S'en fiche.
Ah, ça, moi, je le fais tout le temps quand il y a des problèmes. Et j'ai l'impression que ça marche pas du tout.
Mais en avant, mais ça sert à rien.
Il s'en fiche, à l'adolescence, il s'en fiche et ça console pas. Quand vous êtes petit, quand il est petit, vous pouvez continuer.
Il faut lui dire, c'est grave. Non, saute par la fenêtre.
Tu t'en remettras jamais.
Il faut lui dire qu'est-ce que je peux faire pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et moi, je vous le dis entre vous, parce que moi, j'ai des grandes filles. En réalité, ça passe très vite. Il ne faut pas se laisser impressionner par la violence et la détresse des débuts. Au bout de quelques semaines, je dis Pourquoi oui, tu me parles de ça? Voilà, c'est vite oublié. Voilà.
Merci en tout cas, Ève Roger. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire? Le verdict de nos auditeurs tombera juste avant 18h. Europe 1. Comme moi, chaque soir, vous perdez un quart d'heure à vous engueuler avec votre compagne devant l'écran d'accueil de Netflix. Parfois, elle vous tape même avec la télécommande. Évitez les disputes, écoutez les conseils écran d'Eva Rock, dont la dernière fois, Elise Moon ne se souvenait soi-disant plus où il l'avait vue. Bah, je sais, peut-être une réunion des alcooliques anonymes.
Ça vous arrive des fois, vous savez plus où vous êtes ?
Complètement.
Ah bah ça doit être ça, hein ? Si ça vous fait du bien, on en parle. Vas-y. Juste après, Oshi, ta marinière sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, plus qu'une émission aujourd'hui, une rampe de lancement vers le week-end. En public, comme chaque vendredi. Et en présence d'Elise Moon et Florent Père, tandem de comédiens truculents, drôlissimes et qui, malgré leur succès, n'ont jamais pris la grosse tête.
Jamais.
Surtout Elie. Pas diva pour un sou. La dernière fois qu'on l'avait reçu dans l'équipe sauvage, il avait été hyper sympa, comme d'habitude.
Le thé était dégueulasse, mais c'est un thé de bureau, quoi. Un pec citron chauffé.
Tiens, on t'a mis du mariage frère. 29 balles la boîte. Marco Polo, j'espère que ça te conviendra.
Il vient de balancer du thé avec eux.
Oui, mais du thé de qualité cette fois. Ouais, on s'améliore. Avec les audiences, le budget monte aussi.
Il m'a jeté un sachet à la gueule.
Il va te jeter de l'eau bouillante sur la tronche. Vas-y. Pour que tu infuses.
Elie, on parle de ce film.
C'est génial. Traiter ses invités comme ça. Tiens, tiens, Catherine Deneuve, tu veux du thé, espèce de conne, va. Vas-y, parle.
C'est drôle. Elie, cessez de me faire rire. Je n'arrive pas à vous poser la question pourtant excellente qui vient.
Oh, j'imagine.
Vous imaginez, vous me connaissez. Dans le film, Ducobu participe à un concours de chant.
Oui.
Au cours télé. Est-ce que vous regardez The Voice Kids notamment ? Est-ce que ça vous inspire ? Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous ne regardiez pas la télé.
Franchement, pas du tout. Oh, je suis tellement mauvais en télé, mais je vous jure, j'ai l'impression d'être comme tout le monde, non ? Enfin,
comment ça, comme tout le monde ? Bah, les gens regardent The Voice Kids.
Oui, non, mais je veux dire, la plupart des gens maintenant, c'est pour ça que les audiences des télés baissent de 20 ou 30%, ne regardent plus la télé. On regarde Netflix, on regarde sa propre télé, celle qu'on fait. Donc pour répondre à ta question, non. Tu regardes ? C'est vrai ?
Pas The Voice Kid. Mais The Voice, mais ça marche sur moi, je pleure. Les auditions à l'aveugle, je pleure systématiquement. Parce que le montage, c'est toujours le même. Hein. On les voit, bon, ils sont pas bien, mais parce que je pense que ça fait écho à moi aussi à l'époque où j'étais en demande courir. c'est pas une vanne. Non, mais ils se balancent, ils sont les fauteuils tournés, et au moment où un fauteuil se retourne, leur vie peut. Ils pensent que leur vie peut basculer. Et là, il y a le plan sur la famille qui est là, et ça qui se met à pleurer. Moi, je pleure à chaque fois avec eux.
C'est vrai, mais t'es hyper sensible.
Et puis, il y a des voix incroyables. Non, mais il y a des voix incroyables aussi dans l'émission.
C'est un grand sensible, hein,
celui-là. Bien sûr que je suis sensible.
Vous disiez qu'aujourd'hui, on a arrêté de regarder la télé et qu'on regardait plutôt Netflix ou les plateformes.
Entre autres.
À la demande.
Ouais,
eh bien, voilà une chronique conçue pour vous, puisqu'on perd désormais 17 minutes chaque soir à hésiter devant l'écran d'accueil de Netflix. Nous avons créé 17 minutes de gagné. Eva Rock, c'est à vous.
Oui, alors un petit hommage aussi à Elise Moon, parce que je sais que la maison.
Bon, mais il n'y en a que pour Elie. Allez, salut.
Oui, je suis désolée. Oh,
c'est Moon par-ci, c'est Moon par-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, lui ?
C'est
pas
rien. Allez, bonne journée. 3.
Vous voulez rater ?
Oui, c'est ça, les comédiens. C'est fou. Hein. Il faut gérer leur petite colère de
merde. Il y a des références à Hitchcock dans Duke au but. Eh bien, dimanche, Arte programme une soirée Hitchcock. Alors, avec Fenêtre sur cour pour débuter. Mais surtout, je vous recommande le documentaire qui suit Fenêtre sur cour et qui évoque, c'est un portrait d'Hitchcock.
Hitchcock
et notamment,
Truffaut, non,
non, Hitchcock et Alma. Parce qu'en fait, c'est le rapport qu'a Hitchcock avec les femmes. Et donc, la première d'entre elles, Alma, qui a été sa monteuse, sa scénariste, mais aussi sa femme et la mère de sa fille Patricia. C'était vraiment le duo ensemble. Ils ont travaillé, ils ont vécu ensemble pendant des dizaines d'années.
Alma était avec Hitchcock.
Alma, exactement. Vous allez donc découvrir Hitchcock, le pitre, le père de famille, avec des images mais incroyables. Il multiplie les grimaces et les plaisanteries pour sa femme et pour sa fille. Et puis, vous allez découvrir aussi le réalisateur très exigeant, possessif, voire sadique. Les acteurs du film Les 39 Marches en ont fait les frais.
Le premier jour de tournage des 39 Marches, se souvient Alma, pour la scène de fuite des deux héros attachés l'un à l'autre, il a menotté Madeleine Carroll à Robert Donat et les a laissés enchaîner pendant un bon moment, prétendant avoir perdu la clé. Quand Hitch a constaté que tout se passait bien, il a retrouvé miraculeusement la clé. Maintenant que vous avez fait connaissance, on peut y aller.
J'imagine si vous avez fait ça entre vous deux, pas pour du commun.
Non, mais il y a des réalisateurs qui font régner une tyrannie sur leur plateau.
Alors, c'est vraiment ce
qu'on
découvre.
Mais c'était peut-être le cas avec Hitchcock.
Et moi, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Ouais. Chaque minute du documentaire de Laurent Herbier est rythmée, alors, soit par une image inédite.
Il était obsessionnel. Hein,
obsessionnel, vraiment. Ouais. Soit par une anecdote étonnante. Hitchcock, donc, maître du suspense pour la soirée sur Arte ou sur le site d'Arte, puisque le documentaire est déjà disponible.
Merci Eva. Et ben voilà, on a gagné, mine de rien, 17 minutes.
Très bien. Europe 1.
Il est notre prochain et ultime concurrent, Alain Siroux. Comment vous avez trouvé Eva ce soir ?
C'est une momie qui est particulièrement bien conservée, mais très très bien conservée, et en particulier ce qu'on appelle les tissus mous.
Oui, l'hommage est beau. Quant à Alain, il va nous révéler les derniers secrets du plus fascinant de tous les organes.
Ah ouais.
Non Eva, le cerveau, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage avec Florent Père, vous l'entendez, quel organe, et Elise et Moon qui sont à l'affiche de Duc au but 3. Mercredi prochain, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, dernier jour pour souhaiter à vos proches avec Mireille, car c'est toujours plus chic avec Mireille. Bonne année à vous, chers auditeurs, de plus en plus nombreux à écouter Europe 1 entre 16h et 18h. Mais en même temps, est-ce vraiment si étonnant quand on sait qu'entre 16h et 18h, il y a souvent Alain Siroux ? Alain dit l'arnaqueur pour sa faculté à nous faire croire que les scientifiques ont découvert un truc de dingue, alors qu'en fait non.
Le potier, quand il fabrique l'amphore, il a les doigts sur l'amphore.
Ah oui !
Et on aurait pu entendre finalement sa voix.
C'est incroyable.
Ou les voix des gens autour de lui.
C'est comme un sillon, quoi.
Mais ça n'a pas marché.
Alain, vous êtes actuellement deuxième du championnat européen, on ne sait pas trop comment. Avec quel sujet allez-vous vous propulser à la première place, soutenu par un public déjà acquis à votre cause, je le sens.
Avec la curiosité, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la science, on s'intéresse à la curiosité et à l'observation. Il y a deux grands mystères en science, il y a l'univers, en tout cas pour moi, et puis il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est quelque chose qu'on a du mal à, comment dire, à concevoir, parce que d'abord, on en a tous un, en principe.
Jusque-là, je vous
suis. Vous me suivez. Mais à l'école, comment on parle du cerveau ? Eh bien, peut-être en proposant aux enfants, par exemple, de regarder comment le cerveau se manifeste à travers nos corps. Oui, parce qu'il parle. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez au tableau avec vos ongles sur le tableau.
Ah
là, voilà, première réaction. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on rougit ? Pourquoi est-ce qu'on bâille ? Alors, je peux bâiller, mais je ne vais pas le faire ici parce que, quand même, voilà. Mais vous allez, quelques-uns vont bâiller aussi en même temps que moi. D'autres vont avoir le hoquet. Il y a un pape qui a eu le hoquet pendant 10 ans. 10 ans.
Oui, mais il est mort.
À la fin, oui, mais pas du hoquet.
Ah, mais si, il y en a un qui est mort.
Même le pape n'est pas épargné dans cette émission.
On est en train de parler du cerveau. Hein,
mais, d'accord. Exactement, d'où ça vient. Donc la question, c'est finalement, les scientifiques se sont intéressés à ces signaux qui nous parlent de quelque chose qui est dans notre tête, qui s'appelle le cerveau. C'est comment ça marche, finalement. Alors, il y a une chose que j'ai adorée, c'est justement ce qu'on appelle le guili-guili, les chatouilles. Vous savez qu'Aristote disait, vraiment, personne ne peut se chatouiller tout seul.
Et oui.
C'est Aristote qui disait
mais
ça.
C'est absolument.
C'est pas Patrick Sébastien, c'est...
Non, pas du tout. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, parce que le hockey, il y a des tas de théories, on ne sait pas comment ça marche, etc. Mais la chatouille, c'est encore pire.
Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Alors,
personne ne sait jamais où il veut en venir. C'est ça qui est fabuleux.
Je suis avec vous, monsieur.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je veux en venir sur, finalement, pourquoi est-ce que ça marche ? Donc, les scientifiques se sont intéressés à pourquoi est-ce que, finalement, lorsque quelqu'un vous chatouille le ventre, vous riez, ou même s'approche avec, avec des doigts pour vous chatouiller.
Ah oui, même ça, même l'approche me fait rire, moi.
Mais ça ne marche pas sur le coude, par exemple. Ça ne marche pas sur le dessus de la main. Pourquoi ? En science, on fait des expériences. Donc,
les scientifiques qui se gens d'Harvard, ils sont chatouillés comme ça ?
Ont utilisé des rats. Alors, je vous signale que la souris n'est pas chatouilleuse, mais le rat l'est.
Oui, ça,
et donc, quand on chatouille un rat, il émet des ultrasons que ses collègues entendent et qui les font marrer en quelque sorte.
Il fait
et donc, on a effectivement utilisé ces rats, on a mis des électrodes sur le cerveau, on a vu comment le signal passait. Et on a découvert que, d'abord, ils étaient sensibles à certaines chatouilles, mais aussi à des zones particulières comme l'homme. C'est-à-dire que ça fonctionnait de la même façon. Et on a comparé les deux et on s'est rendu compte qu'il y a un endroit dans le cerveau qui s'appelle l'insula, qui est en fait la région du cerveau qui témoigne en fait des états et des liens entre le corps et les émotions qui s'activaient à ce moment-là. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et là, on a découvert aussi que finalement, ce qui interdisait la chatouille, c'est le stress, la peur. Ça ne marche pas quand on a peur. Quand quelqu'un vous agresse, on n'est pas sensible à ça. Par contre, dans le jeu, qu'est-ce que signifie le jeu dans l'histoire de l'évolution animale, humaine, etc. Le jeu, c'est un simulacre de combat. avec un adversaire, et puis à un moment donné, quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Et quelqu'un qui perd, à un moment donné, un signe de soumission. Et pour se soumettre, et regardez avec votre chien, avec des animaux.
Vous allez dire, regardez avec Florent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend, Alain ?
Pour montrer qu'on a perdu, on montre une zone sensible, celle qui est la plus vulnérable. Et on dit, d'accord, j'ai perdu, donc voilà ma zone sensible. Et effectivement, la petite chatouille, le petit endroit qui est vulnérable, signe quelque part une soumission. Et la conclusion des neurologues, c'est que la chatouille signale la vulnérabilité, qu'elle est commune aux animaux et aux hommes, pas tous, et qu'elle parle de notre cerveau qui est ancestral. Nous sommes là sur la Terre, nous les humains, depuis plusieurs millions d'années. Nous sommes, entre guillemets, civilisés, en tout cas l'agriculture, depuis 10 000 ans. Eh bien, tous nos réflexes, en grande partie, et ces petites manifestations dont je vous parlais, la chair de poule, les frissonnements, les rougeurs, les chatouilles, etc., viennent de notre cerveau ancestral, celui qui à signer aussi comme les chiens, comme les rats, etc., le jeu, la compétition, la peur, l'alerte. Et ça, c'est une façon de comprendre le cerveau, c'est qu'il a une histoire. Et comme l'univers, eh bien, c'est intéressant de l'explorer.
Et maintenant, c'est notre nouveau défi pour les invités. Résumez la chronique d'Alain en une phrase. Élie, on vous écoute.
Non, mais moi, depuis que vous l'avez traité de pédocriminel...
Merci Alain Siroux pour cette chronique qui nous a entraînés au cœur du cerveau. Comment ça s'appelle la petite zone? L'insula.
L'insula,
ça a à voir avec insuline probablement. On me la fait pas. Non, pas du tout. D'accord,
autant
juste pour moi.
Juste à côté de l'hypothalamus et l'hypophyse.
Exactement.
L'hypopotamus. Ah bah tiens, je t'invite à... Allez, c'est parti.
C'est incroyable, Élie, parce que je l'ai eu et hop, je l'ai censuré pile au
moment.
Ah oui,
c'est vrai. Et moi, je l'ai fait.
On est complémentaires. On est complémentaires.
Complémentaires, ouais.
Oui, mais merci, Eva. Merci, c'est magnifique. Magnifique. Et nous sommes au bout, me signale-t-on en régie. Eh bien, si nous sommes au bout, je vous dis à tout de suite. Je vous connais, cher auditeur. Vous avez une fois de plus complètement oublié de penser à une recette pour ce soir. Vous vous apprêtez encore à décongeler des croustibates en urgence. Heureusement, Olivier Pouls arrive pour Delice in Extremis, votre recette de dernière minute. Séquence qui sera précédée d'une interview que je redoute toujours un peu, surtout face à Elie Semoun, qui a tendance à détourner mes questions cons pour les retourner contre moi comme un boomerang vicieux.
Si tu devais parler au petit Mathieu...
Oh, le petit Matounet.
Eh ben, je pense qu'il aurait honte, tout simplement.
Je vais plutôt me concentrer sur les questions à Florent Pey.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est la dernière ligne droite pour l'équipe sauvage en public le vendredi. Un public, Eva, à qui nous tenions à offrir un duo de stars exceptionnel aujourd'hui, deux vedettes de premier plan.
Jeanne Masse et Jackie Quartz.
Non, et Jackie n'était pas dispo. En revanche, Florent Pey et Élie Semoun, oui. Florent et Élie, que vous retrouvez avec bonheur dans Duc au but 3. Aux côtés également, citons-les, de Frédéric Bell, Émilie Caen et Mathis Gros qui incarne Duc au but.
Loïc Lejean, Gérard Jugnot et Mathis, notre petit Duc au but.
Comment vous l'avez trouvé, le petit Mathis?
Alors Mathis...
Parce qu'il a, lui, c'est son premier film.
Oui, c'est son premier film. Il vient du sud de la France, comme d'ailleurs Lilou et Léopold, Lilou, Mademoiselle Gratin et Léopold Willy. Eh bien, ils ont tout simplement répondu à une annonce de casting. J'ai envoyé des annonces comme ça, j'ai reçu...
Florent Pey, il n'y a pas eu de casting pour Florent Pey, lui, c'est imposé directement.
Non, mais j'avais proposé à Manu Payet et je regrette vraiment, je regrette vraiment que Manu ait refusé.
C'est vrai, problème d'emploi du temps, hein, c'est con. Oui.
Donc, tu fermes ta gueule, d'accord, et tu me laisses parler de Mathis. Non, Mathis, une grosse découverte. Une découverte pour moi, parce qu'il n'a en effet jamais rien fait. Il a la rondeur du personnage. Quand je l'ai vu arriver, il a cette petite bouille là, et j'ai croisé les doigts pour qu'il soit bon comédien. Enfin, bon comédien. Quand je l'ai rencontré, il avait 12 ans. Hein. Un bon comédien à 12 ans. Enfin, on sait... En tout cas, il avait l'instinct de la comédie.
Oui, c'est une question. On s'émerveille toujours du jeu des enfants dans les films. Est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui sont excellents comédiens, oui, ou ça dépend beaucoup du réalisateur qui sait les diriger en fait quand...
Je les ai bien dirigés. J'ai galéré. Ouais. Non, franchement, j'ai galéré. Pour certains, j'ai galéré. Je ne dirais pas qui, mais franchement. Mais Lilou, par exemple, je n'ai pas galéré du tout.
Elle est
incroyable. Elle est belle. Elle crève l'écran. Avec elle, on faisait 3-4 prises, même pas. Parfois 2 prises, et c'était exactement ce que je voulais. Les garçons, c'était plus dur. Ils parlaient vite, etc. Mais au casting, j'ai l'œil maintenant, et je les ai scannés en 2 secondes, et je voyais... Dès qu'ils rentraient dans la pièce, je savais que ça allait être eux ou pas.
Combien d'enfants vous avez casté pour avant de choisir Mathis?
200 ou 300. Ouais. J'en ai vu plein. Il y a eu 2000 réponses, hein, quand on a envoyé le mail sur Internet. c'était fou.
Il y a eu une rumeur qui courait parce que Ellie faisait la sortie des écoles pour. Mais il faisait un casting.
C'est un métier, un réalisateur. Oui. Ellie, c'est votre premier film, on le disait, et vous n'êtes pas facilité la tâche parce que vous jouez trois rôles. C'est
quand facilité. Bah. Non, mais j'ai l'habitude de passer d'un personnage à un autre. Mais oui, j'ai fait ma propre mère, Maman Latouche. 2h30 de maquillage et le résultat est impressionnant. Hein. Elle fait peur. Elle est castratrice avec Gustave Latouche. Puis après, j'ai fait un personnage bien dégueulasse, Gérard Gérardini, avec des petites dents de
vampire. Avec un nom bien dégueulasse aussi. Ouais.
Et bon, écoutez, non, mais ça a été, franchement, quand on fait un film, on a une bonne équipe. J'avais une bonne équipe et ça va, ça s'est bien passé. Franchement, il y a pire dans la vie.
Florent Père, vous êtes aussi, on peut vous voir sur scène actuellement, dans une pièce pas dégueu, Le Prénom. Ouais. Un des plus gros succès de ces dernières années au théâtre, et ça a donné un film d'ailleurs. Vous reprenez le rôle de Patrick Bruel.
Ouais, tout à fait, ouais. Je suis obligé de jouer comme ça, je me demandais. C'est le metteur en scène qui m'a dit, tu fais tout comme ça? Oh putain, offrez-vous un ascenseur. Adolphe, il s'appelle Adolphe.
Donc ça, c'est un grand plaisir de reprendre ce rôle, Florent Père. C'est pas trop dur de se mettre dans... Comme il y a le film, on a tous peut-être le film en tête, c'est pas dur de passer derrière Patrick.
Je l'ai vu, c'est formidable.
Merci, t'es adorable. Ouais, vraiment, écoutez, vraiment. Innocemment, alors soit c'est de la prétention, soit c'est de l'inconscience, je pense que c'était plutôt de l'inconscience, je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire que je trouvais que l'intelligence de Bernard Murat, le metteur en scène, et de Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte, les auteurs, c'était de faire cette nouvelle distribution. Sans aucune, il n'y a pas de comparaison possible en fait. C'est-à-dire, déjà, on n'a pas du tout le même âge, mais en plus, on est des. Les univers sont tellement différents, mais c'est vrai pour Bruel et moi, mais c'est vrai pour Jonathan Lambert, pour Lilou Fogli, pour Marie-Julie Bob et Sébastien Castro à Paris, et pour Juliette Poissonnier, Mathieu Rosé et Julie Farranque, pardon, en tournée. C'est qu'il n'y a pas de. On ne peut pas comparer. Donc, à partir de là, une fois qu'on est émancipé de ça, c'est le texte qui est impressionnant dans la pièce. On se dit, c'est un grand cadeau.
Trop d'impro parce que vous, on sait que vous êtes fort en impro, il n'y a pas d'impro dans la pièce.
Zéro.
Pas
de place zéro, pour l'impro dans le prénom. Trop de respect pour le texte et la mise en scène, et puis il n'y a pas besoin surtout.
Est-ce que vous avez quelques dates en tête, Florent Père, ou pas du tout?
Ce soir à Longjumeau, demain à Issy-les-Moulineaux, et dimanche au Mureau. Et après, il nous reste 3-4 dates la semaine prochaine à Cahors, Perpignan, et je sais plus.
Et bien, après c'est fini.
Et le spectacle arrive, le nouveau One Man.
Mon nouveau One Man Show qui s'appelle Nature.
Donc j'ai assisté à la création. Et je peux vous dire que, vu comme ils ont bossé cet été, jusqu'au bout de la nuit, ça va être sympa. Une autre date à retenir, le 5 février, Duc au but 3 qui sort sur vos écrans. Ouais. Florent Père, Elie Semoun sont nos invités jusqu'à 18h. Attendez, on me signale que je n'ai pas tout dit. Je crois que nous avons une autre promo à faire. Elie, une autre information d'importance que vous voulez nous communiquer.
Antoine Semoun, mon fils, il expose dans une galerie à Paris, 55 rue Bellechasse, dans le 7e arrondissement. C'est un événement dans la famille Semoun, un nouvel artiste est né. Je suis très fier.
C'est quel type C'est photo, c'est peinture
Non, c'est de la peinture, pardon. C'est de la peinture et vous pouvez aller voir sur son Instagram, il se fait appeler Andy Santori.
Parce qu'il a honte de son père. Ouais,
espèce de salaud. Bah. Je me doutais bien qu'il n'y avait pas un cadeau sans une saloperie. Merci, au revoir.
Bien. Vos estomacs commencent à gargouiller. Hélas, votre créativité culinaire est nulle et non avenue. Votre sauveur s'appelle Olivier Pouls. Aujourd'hui, il vous livre la recette du goûter idéal de Duc au but, juste après un petit Pink Floyd. Another Brick in the Wall sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Florent Père et Elie Semoun sont avec nous cet après-midi. Vous écoutez L'équipe est sauvage, l'émission qui chérit vos neurones, malaxe vos zygomatiques et trouve même le temps de taquiner vos papilles avec le Duc au but belge. Olivier Pouls, qui, comme le personnage de votre film, n'a jamais fait des étincelles à l'école. Il a toujours estimé que le bic 4 couleurs et le compas étaient des outils tristes et inutiles.
Alors qu'un tire-bouchon est un outil foutrement sympathique.
Bonjour Olivier Pouls.
Mais c'est vrai, j'en ai un dans ma trousse.
J'imagine.
Un belge.
En revanche, il y a un truc que vous aimiez à l'école, Olivier, c'est le goûter.
Bah évidemment, et j'imagine que Duc au but aussi aime les goûters.
Oh que oui.
Grosse part du budget du film, d'ailleurs.
Vous avez des souvenirs de goûter, d'ailleurs, vous? Il y a un goûter qui était une Madeleine de Proust, un peu fétiche pour
c'est
vous.
C'est une bonne question. Tout de suite, je pense au Nutella, les tartines de Nutella.
Ouais, voilà. C'était l'époque où on ne souciait pas l'huile de palme. Hein.
Moi, je me souviens des croissants au beurre avec du saucisson dedans.
Non, mais non.
Sérieux ?
C'est pas une blague.
Avec mon frère, qui est un peu plus âgé que moi, on se faufilait dans la cuisine de ma grand-mère, on sortait de la piscine, on faisait, prenait un croissant, du beurre et des rondelles de saucisson.
Sérieux ?
Saucisson
dans la croissant. J'avais pas pensé.
On buvait un verre de rouge.
Et on était bien pour aller en scène 2, quoi.
Ben voilà,
impeccable. Alors, Olivier, c'est quoi ce goûter que vous nous préparez ?
Moi, mon goûter, c'était les gaufres.
Vous êtes belge, rappelons-le.
En Belgique, il y a deux emblèmes nationaux de la Belgique. Hein. Il y a les frites,
frites et les gaufres.
Et les gaufres. Et alors, comme les Belges sont un peu compliqués, entre wallons, flamands, etc., il y a une autre bagarre sur les gaufres. Gaufres de Liège ou gaufres de Bruxelles.
Ah, c'est quoi la différence ?
Alors, les gaufres de Liège, qui sont mes préférés.
Qui ne s'appellent pas les gaufres, hein, je sais. Hein,
si, on appelle ça des gaufres de Liège, tout ça.
Vous êtes sûr ?
Allez, avec l'accent, on dit même des gaufres de Liège.
Ah, des gaufres de Liège.
C'est le seul Belge qui fait mal l'accent belge. C'est un mystère.
L'accent liégeois, les gaufres de Liège. Alors, les gaufres de Liège, ce qui est fantastique, c'est qu'elles sont légèrement caramélisées.
Ah oui, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime.
Non, elles ont un autre nom.
Ah mais il t'a appris à faire des vannes, lui.
Mais non, mais. Mais je t'assure.
Laisse-te parler de cuisine.
Oh merde. Non, mais elles sont dans un petit. Dans une petite boîte, et en effet, c'est marron, mais ça a un autre nom.
Alors ça, c'est
vous êtes
pas...
sûr
que... Non, moi, je suis sûr que la gaufre de Liège, ça s'appelle bien la gaufre de Liège.
Oui,
je vais même vous en donner la recette.
On vérifiera quand même tout à l'heure, Olivier.
Pour y aller. Alors, la recette, c'est très simple. C'est 500 g de farine, 200 g de beurre, 40 g de cassonade. On utilise beaucoup de cassonade
très bon.
Belgique. 20 g ou 20 centilitres plutôt de lait, 2 œufs. Un petit peu de levure, et puis surtout, très important, parce que c'est ça qui va faire caraméliser, c'est 150 g de sucre en grain. On achète ce sucre assez facilement. Ouais. Et donc, on met ce sucre en grain.
Ils sont contents, hein.
Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là.
Vous dites toujours ça ?
Franchement,
on en est à deux morts déjà. Chez les auditeurs, alors vous êtes sympa, mais enfin bon.
Tous ceux qui suivent votre recette au quotidien, j'aimerais voir leur
état.
J'en ai mangé toute ma vie, regardez le résultat, je suis en pleine forme.
Effectivement, c'est encourageant. Alors continuez.
Donc on mélange évidemment tous ces ingrédients, on laisse poser, et ensuite il nous faut un gaufrier. Alors ça s'achète, c'est pas très très cher.
Non, mais ça s'appelle pas un gaufrier. Ça s'appelle une petite boîte.
C'est pas ma voix.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant cette pâte dans le gaufrier, en le refermant pendant deux minutes, il y a le sucre, ce fameux sucre en grain qui va commencer à fondre et qui va caraméliser. Et quand on va manger cette gaufre, qui aura donc légèrement monté, on va avoir le croquant du sucre caramélisé dedans, et puis tout le moelleux de la pâte autour. Ça, c'est la vraie gaufre de Liège, à mon avis, la meilleure. Elle a plus de saveur que la gaufre de Bruxelles, un peu plus simple, et qui ressemble davantage à une pâte à crêpes, d'ailleurs.
Qui est plus légère, quand même.
Qui est un peu plus légère, mais moins bonne, forcément.
C'est la logique pour
Attention,
vous êtes sûr que ça s'appelle la gaufre de... Non, j'ai pas trouvé. Ça me rend dingue parce que j'ai été faire une émission parce que mon amie est liégeoise et je lui ai envoyé une photo justement de cette gaufre. Elle m'a donné le nom.
Mais peut-être que votre amie liégeoise, c'est foutu de votre gueule.
De la personne qui nous a fait manger des pêches au thon cet été.
Oui.
Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé d'écouter cette personne?
La fameuse pêche au thon. Non, mais c'est vrai. La pêche au thon, c'est belge aussi, non?
Bon, faut pas partir.
Non, c'est juste dégueulasse. Mais c'est
carbonade à la flamande, oui, mais la pêche au thon.
La prochaine fois, Elie, vous nous présenterez cette charmante personne.
L'avocat crevait.
Mais attendez, je suis en ligne avec la belge.
Ah oui, et donc la belge nous dit.
Alors attendez, on va lui téléphoner. On va voir. Attendez.
Qu'est-ce que tu veux,
m'entends, Anaïs ?
Mais fous-moi la paix !
Attends.
Oui.
Voilà, alors on est dans un débat. La gaufre liégeoise s'appelle comment ?
Alors on appelle ça la gaufre de Liège.
Ah merde ! Ah, bon. Excuse-moi, j'aurais pas dû t'appeler.
Humiliation.
J'ai été humilié. Bon bah je te remercie, hein. Je t'embrasse.
Ah oui, ça, on l'a remercié. Merci Anaïs.
Je me suis fait humilier devant tout le monde.
Un grand merci. L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 touche à sa fin. Qui, dans quelques instants, se coiffera de la rutilante couronne de chroniqueur du jour, se hissera sur les épaules des Varocs, du haut desquels il fera l'hélicoptère en hurlant «
Je suis le maître du monde !»
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
La folle chevauchée va bientôt se terminer. Une nouvelle semaine s'achève pour les fiers cavaliers de l'équipée sauvage. Semaine où nous aurons alterné entre éclat de rire avec Florent Père et Elise Moon aujourd'hui et émotion avec l'appel solennel d'Alessandra Sublet au dépistage du cancer de la prostate mercredi.
Pour un garçon, c'est pas facile d'aller se mettre un petit doigt dans les fesses quand même.
C'est bien dit.
titre. On en a repris un peu. Hélas, l'heure de nous dire adieu a sonné. Le coup près va tomber pour nos quatre journalistes en compétition. Qui va repartir avec la couronne? C'est le quitte ou double. 10 secondes pour convaincre nos invités. Alain Sirou, tonton Sirou, pourquoi voter pour vous?
Convaincre, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai provoqué un peu de chair de poule dans votre cerveau archaïque et que j'attends l'œuf en or.
Oui, vous...
pas mal.
Tu te rattrapes bien, mais c'est... Oui. ça sert à rien.
Nicolas Caron, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo.
C'est tellement facile de se réfugier derrière les grands.
Ils sont morts, monsieur.
Ève Roger.
Moi, je pense que derrière le poste, les auditeurs se sont remémorés leur premier chagrin d'amour
ça,
et ils se sont rendu compte peut-être qu'ils l'avaient dépassé. Et donc, un bonheur pour les auditeurs.
Fred Goati, pourquoi, comme moi, les auditeurs devraient-ils voter pour vous?
Gemma est élue par Élie et Florent parce que j'ai défendu tout mon cœur un génie du jazz qui a renversé toutes les barrières au nom de l'amour de cette musique.
Michel Petrucciani, on l'embrasse. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Oui, Michel Petrucciani est mort, je l'embrasse dans l'au-delà. C'est mon droit.
Les auditeurs ont voté pour Ève Roger.
Ève Roger, deux points pour Ève Roger. Pour ma part.
Non, attendez, j'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce que vous avez à dire?
Le public.
Ah, c'est pas faux. Le public était là, le fabuleux public du studio. Oui, mesdames et messieurs, à voter.
Il nous oublie déjà.
Pour qui a voté notre fabuleux public?
Pour Ève Roger.
C'est la première fois.
Ça fait 4 points en total pour Ève Roger.
Pour ma part, je vote pour Fred Goati, comme je l'ai annoncé. Ici, Élie le sait, c'est l'invité. Nos invités qui décident. Ils ont chacun 3 points. Florent Père, Élie Semoun. Qui est selon vous le chroniqueur du jeu?
On doit voter pareil, lui et moi?
Non. Non, pas du tout.
Alors, je commence?
Je t'en prie.
Pour moi, je suis désolé, mon amour du jazz, Fred Goati.
Fred Goati remporte les trois points d'Élie Semoun.
J'adore Petrucciani et il en a parlé d'une telle façon. Les chagrins d'amour aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est quand même des mauvais souvenirs.
Florent.
Et moi, comme je suis un grand nostalgique, Ève Roger a fait renaître en moi des souvenirs qui finalement, on se rend compte avec le temps qui passe que c'est un bon souvenir.
Voilà. On embrasse Jessica.
Merci beaucoup. Ouais. Merci.
Et c'est donc 7 points pour Ève Roger qui remporte la 106e journée de l'équipée sauvage. On remercie du fond du cœur Élie Semoun et Florent Père que vous pouvez applaudir sur scène, en tournée et au cinéma mercredi prochain dans Duc au but 3. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roque, Ève Roger, Fred Goati, Nicolas Caro et Alain Sirou. Et évidemment Olivier Pouls, ne l'oublions pas. L'équipe est sauvage revient demain 16h.